Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, comment ça va les petits amis? Hop, ça c'est fait. Est-ce que ça va? Salut, bonjour! Bonjour, bonjour, tout roule ou quoi? Comment ça se passe en ce lundi? Bonjour, bonjour. T'as bien fait la fête samedi? Ah bah carrément! Fête de l'Huma! C'était le feu. C'était le feu samedi, la fête de l'humain. Enfin, tout le week-end, non? Il y avait un monde. Oh! Plus de 600 000 personnes qui sont venues sur le week-end à la fête de l'humain. C'était incroyable. C'était incre. C'était vraiment incre. C'était blindé. Pour Backseat, le public était bouillant. Les gens étaient giga nombreux. L'agora était full et tout, c'était trop de la balle. C'était infernal pour bouger. C'était pas toujours facile de se déplacer dans les allées de la fête de l'Huma, je te l'accorde. Il y avait beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en avait dans le chat qui étaient à la fête de l'Huma ce week-end? Si vous n'y étiez pas, c'est pas grave du tout. Hein. Ça arrive à des gens très bien de pas aller à la fête de l'Huma. Vous viendrez l'année prochaine. Évidemment, d'accord. Donc Gatwick, toi tu étais à la fête de l'Huma, trop bien. J'étais à la fête du Figaro, my bad. C'était autre chose. Oui, présente. Oui, le club est fidèle. Ah, les gens du club Backseat. Il y avait des gens du club Backseat qui étaient présents. Dites-vous qu'il y avait des gens du club Backseat qui étaient présents à la fête de l'Huma et qui ont même filé un coup de main sur la déambulation de Malek et Namou. C'était trop le feu. Bien sûr, devant Backseat, c'était le feu. C'est si loin. Ah, c'est pas la porte à côté. Mais faut se motiver. Faut être déter. J'étais là au premier rang. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'assister à Backseat car j'habite à Toulouse et de vous voir trop content. Ah, bah c'est trop bien. T'étais au premier rang, mais ça fait trop plaisir. Ça va t'arriver à voir quelque chose au premier rang? Parce que j'ai l'impression que on voyait pas les têtes du premier rang. Je me trompe peut-être, hein. Il y a un screen de la déambulation avec nous, en effet. Ouais, j'ai regardé la déambulation. Il y a des moments où on voit les membres du club Backseat. Mais on voit aussi les membres de l'équipe Backseat. Hein. Il y a des gens que normalement, qui normalement sont toujours derrière la caméra et que l'on voit exceptionnellement. Attends, je vais. Il faut que je. Faut que j'aille sur la chaîne Backseat. Ah mais non, elle n'est pas sur la chaîne Backseat, la déambulation. Elle est peut-être pas encore. Je sais pas. Non, elle est quelque part sur ma chaîne Twitch. Premier rang aussi, je voyais bien, mais je fais presque 2 mètres. Bah, ça va alors. Au premier rang, on était assis par terre, on voyait rien du tout. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Au premier rang, vous voyez rien. Parce qu'il y a l'estrade qui est devant. Qui fait un espèce de... Ouais, non, c'est... Bah, c'est l'Agora, quoi. Vous le saurez pour l'année prochaine. Mais, mine de rien, grosse programmation, l'Agora de la fête de l'Huma, cette année, hein. J'ai vu, il y avait la rapporteure des Nations Unies pour la Palestine. Alors, il y avait Paul Watson ça a fait beaucoup de débats. Il y a eu la table ronde de la gauche. La table ronde de la gauche, j'étais en train de l'écouter, la table ronde de la gauche. Avant de lancer le stream, j'étais en train d'écouter la table ronde de la gauche. Regardez le monde qu'il y a à l'Agora. Trop le feu. Et il y avait Marine Tondelier, Olivier Faure, Stéphane Peu, Adrien Clouet et François Ruffin. Les discussions de la gauche. C'était super intéressant. C'était très très chouette. Oui, il y a eu aussi, j'avais oublié, mais il y a aussi Patrick Martin. Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui était à nouveau l'invité de la fête de l'humanité cette année. L'année dernière, il était l'invité Sophie Binet de la CGT qui a invité le patron du MEDEF à débattre à la fête de l'UMA. Et cette année, il était l'invité de Fabien Gay, le sénateur communiste et patron de l'Humanité, qui est, je vous le rappelle, l'auteur du rapport sur les aides publiques aux entreprises, les fameux 213 milliards d'euros par an, même si ces chiffres font débat. Jean-Luc Mélenchon aussi au stand LFI qui a tiré sur tout le monde. Bah, tu m'étonnes, évidemment. Après, chaque stand avait sa programmation. Hein. Chaque stand avait sa programmation. Il y avait beaucoup de stands. Beaucoup de stands. Il y avait le stand des médias libres ou des médias indépendants, je ne sais plus comment ils s'appelaient. C'est carrément le village des médias indépendants où il y en avait plein. Qui était pas loin de l'Agora. Est-ce que la rediff complète de Baxit est sur YouTube? Oui, à l'exception de la déambulation de Malek et Namou, qui devrait être uploadée soon, je le suppose. Tu as le Baxit de la fête de l'UMA qui est sur YouTube. On a fait 3 parties dans cette UMA. Je vous rappelle que c'était un Baxit en partenariat avec Saïra. Saïra, l'émission, le talk show sur Twitch de l'UMA. Et donc, on a construit cette émission ensemble. On a commencé par un moment d'actu typique de Baxit avec que les chroniqueurs qui parlent d'actualité. Ensuite, on a eu un moment où on a fait le point sur les mobilisations, notamment du 10 et du 18 septembre, avec 2 personnes mobilisées, un syndicaliste et une personne relativement nouvelle dans l'engagement politique, Thibaut et Thomas. C'était Thibaut ? Oui, c'était Thibaut, je crois. Je ne sais plus. Et la troisième partie, c'est l'invité politique de Baxit. Ça, vous connaissez, hein, comme dans tous les Baxit, on reçoit un invité politique qui fait l'actualité. Et là, vu que le peuple de l'Humanité était à fond pour l'unité de la gauche, enfin beaucoup en tout cas, on a reçu Alexis Corbière, l'unitaire Alexis Corbière, qui est venu faire un plaidoyer pour l'unité de la gauche en général et dans les élections en particulier. Franchement, je suis passé plusieurs fois au village des médias indépendants, j'ai pas vu Blast. Ah ouais, t'as pas vu Blast? Mais ils y étaient pourtant, normalement. Je t'avoue que je les ai pas vus non plus, j'ai pas fait attention, j'y suis pas passé plus que ça. Tondelier qui a applaudi en rythme quand le public a scandé unité. Ouais. Le public a scandé unité, unité, le public de l'UMA. Ils n'ont pas été rachetés, Blast. Blast ? Mais qui va racheter Blast ? Comment ça, racheter Blast ? Non, tu confonds avec Brut. tu confonds Brut et Blast. Enfin, t'as fait la même boutique. Hein. Brut a été racheté par CMA-CGM, le groupe de Rodolphe Saadé, dans lequel il y a déjà BFM TV et RMC, si je ne dis pas de bêtises. Blast appartient à personne. Hein. Blast, c'est invendable. Hein. Blast, on les aime beaucoup, hein, mais... Non. Non. Pourquoi Usul n'aime pas Mathieu Pigas? J'en sais rien, faudra lui demander. Info chat, Blast racheté par Rodolphe Saadé. Non, Blast... Blast, c'est pas à vendre. Hein. Puis c'est pas à acheter non plus. Hein. Abonnez-vous à Blast, évidemment. Hein. Soutenez Blast, mais... Est-ce que les cinémas UGC... merci Mathieu Borghalassi. Merci pour ton raid, Mathieu. On est en train de débriefer la fête de l'UMA. J'ai eu du mal à m'en remettre de la fête de l'Huma. J'ai dormi. J'ai dormi dimanche beaucoup. J'ai passé ma journée au lit pour m'en remettre. Parce que j'ai fait la teuf. Alors, j'ai fait la teuf. Cette année, on a fait la teuf avec une partie de l'équipe de Backseat. On s'est retrouvé à faire la teuf au stand du Parti communiste du Pas-de-Calais. Grosse teuf. Et à un moment, on s'est dit, venez, on bouge. On va voir où il y a de l'ambiance ailleurs. Du coup, on est sorti du stand du Parti communiste du Pas-de-Calais. On a marché 5 mètres et on est tombé sur le stand du Parti communiste du Nord. Et la musique était vachement bien. Du coup, on a dit, ah, venez, on y va. Et du coup, on a fait la teuf au PCF du Nord pendant encore une heure. C'était, ouais, fouf, on a voyagé, hein. On est allé loin. On est allé loin. Et après, on a demandé à Usul où est-ce qu'il était. Par texto, il nous a dit « Je suis au NPA, en train de faire la teuf. » Du coup, on s'est dit « Ok, go, on le rejoint. » On a marché, marché, marché. On s'est retrouvé devant le stand du NPA. Il n'y avait pas Usul. Puis de manière générale, il n'y avait personne. C'était un peu bizarre. On s'est dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il est fermé, le stand du NPA. Pourquoi Usul nous dit qu'il est là alors qu'il n'est pas là, etc. Et en fait, on s'était planté de NPA. Évidemment, on s'était trompé de NPA. On n'était pas devant le bon NPA. On était devant le... Non, l'autre. Et que, voilà, on a fini par comprendre notre erreur. C'est non, mais on s'est trompé. Non, c'est pas le bon NPA. C'est l'autre. Et du coup, on a remarché, marché, marché, marché pour trouver le NPA. Et quand on est arrivé, Usul n'était plus là parce qu'entre-temps, il avait bougé, évidemment. Donc, on n'a pas trouvé Usul. On s'est barré et on est allé au stand. Il y avait des stands où il y avait de l'ambiance. Hein. Le stand de l'après, il y avait un stand de l'après-génération et debout. Les trois parties unitaires là, qui ont fait leur grand stand. L'ambiance avait l'air assez ouf. Et l'autre stand où il y avait de l'ambiance, c'était le Parti Socialiste, il y avait de l'ambiance. Les Insoumis, il y avait de l'ambiance aussi. Non, mais en gros, je suis en train de réfléchir, mais tous les gros stands. Hein. C'est qui debout ? Debout, c'est François Ruffin. C'est le nom du parti de François Ruffin. T'as raté Marine Tondelier karaoké avec Clémentine Autain. Sérieux ? Putain, pourquoi je rate tous les bons moments ? Parce que autant, je me souviens très bien, j'étais là, physiquement présent. Marine Tondelier, Olivier Faure qui font un karaoké, ça je m'en souviens très bien, j'étais là. Olivier Faure qui fait un slam. Je vous jure que je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux Olivier Faure se jeter sur la foule, sur les écologistes pour faire un slam. Mais là, du coup, ah putain, j'ai raté Marine Tondelier et Clémentine Autain qui font un karaoké. Dommage, j'ai vu que Usul avait fait un karaoké, mais ça m'étonne pas de lui. Je sais pas sur quel stand d'ailleurs il était. J'ai loupé le slam d'Olivier Faure. Mais c'était pas cette année. Le slam d'Olivier Faure, c'était l'année dernière aux universités d'été des écolos. Olivier Faure était invité de l'université d'été des écolos. Et le soir, Marine Tondelier l'a engrainé dans un karaoké. Et le karaoké s'est transformé en Tout le monde danse et slam. Et du coup, Marine Tondelier s'est jetée sur la foule pour faire un slam. Et Olivier Faure, il était tout seul sur scène. Il s'est dit, bon, bah vas-y, moi aussi, je me jette. Et voilà, c'était très drôle. Si je résume, la gauche, ils sont forts pour faire la fête ensemble, mais pas trop pour se mettre d'accord. La droite, c'est l'inverse. C'est un peu ça. La gauche, c'est s'amuser. Ah bah en tout cas, la fête de l'Huma nous le démontre chaque année. Une ambiance de feu, des stands incroyables, des gens avec des sourires pas possibles, des concerts incroyables. Alors moi, j'ai rien vu comme concert cette année. J'ai absolument rien vu comme concert. J'ai fait que des stands. Si, on a fait la teuf sur le stand de l'Heure. Parti communiste de l'Heure. Voilà, je rends hommage aux militants à chaque fois. T'as raté Cassius, mais j'ai tout raté. J'ai raté Théodora, j'ai raté Cassius. Théodora, c'était pendant c'était pendant Backseat, je crois. Les stands à côté de l'Agora. Ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, le stand, quand t'es à l'Agora, le stand le plus proche pour aller chercher de la bière, c'est le stand de l'heure. Donc effectivement, je suis allé chercher de la bière au stand de l'heure plusieurs fois. Je bossais juste à côté au stand du PC du Calvados. Oui, le Calvados. Oui, le stand du Parti communiste du Calvados. Oui, je me souviens. Je vois où il est. J'ai raté le débrief Backseat. Non, t'as pas raté le débrief Backseat. On va le faire. Est-ce que ça vous a plu cette édition de Backseat en direct de la fête de l'UMA? C'est toujours particulier. C'est toujours une ambiance très chaleureuse. La fête de l'UMA. Les Backseat à la fête de l'UMA, c'est une émission très particulière. C'est une émission très particulière, Backseat à la fête de l'UMA, parce que t'as un public qui est bouillant, parce que t'as un public de gauche qui vient pour essentiellement entendre des choses de gauche et qui applaudit, etc. Donc ce qu'on disait avec Usul, c'est que c'est un peu une émission meeting, quoi. C'est un peu une émission meeting, mais c'est pas grave. C'est un exercice, quoi. C'est un exercice particulier qu'on aime faire aussi. On continue à garder l'identité de Backseat tout en le faisant dans le cadre d'un festival qui est pas n'importe quel festival, quel festival. De la fête de l'UMA, en partenariat avec l'UMA, avec Saïra. J'avais l'impression que c'était un peu le bazar pendant l'interview de Corbière. Non, c'était pas le bazar pendant l'interview de Corbière. Corbière, il était. C'était assez intéressant parce que si vous tendez bien l'oreille, vous verrez que Corbière, il se faisait huer par les insoumis, évidemment. Au début, quand il faisait des prises de parole à certains moments, mais à la fin de sa prise de parole, il se faisait applaudir. La salle était vachement ambivalente, hein. C'était pas unanime anti-Corbière, etc. De toute façon, c'était à l'image de la fête de l'UMA et à l'image de la gauche. La gauche est divisée, on le sait. La gauche à la fête de l'UMA se divise, et des émissions comme Backseat, c'est l'occasion d'en parler. Donc, on en a parlé avec Alexis Corbière, et donc voilà quoi. Mais le public n'était pas unanimement contre Corbière. Ni unanimement pour Corbière. Public, il était ambivalent. Pardon, excusez-moi. À mes souhaits, merci. Même chose pendant la table ronde avec Faure, il se faisait huer, mais quand il commençait à parler et applaudir à la fin, exactement. Olivier Faure, pareil. Au début, il s'est fait un peu tancer par une partie du public. À la fin, il se faisait applaudir sur ce qu'il disait. Mais qui voulait que je vous dise, c'est à l'image de la gauche, c'est à l'image de la gauche en France en 2025. Comme a dit Olivier Faure, il y a toujours eu une gauche radicale et une gauche réformiste. C'est pas nouveau. Alors, franchement, pardon, mais des fêtes de l'UMA où la gauche est divisée, c'est ni la première ni la dernière. Il va y en avoir d'autres, hein. Un milliard de raisons de continuer les discussions. Ou les engueulades, ça dépend, c'est selon. Il s'est passé quoi avec Paul Watson? J'en sais rien, j'étais pas là moi. Paul Watson était invité à l'Agora et il y a eu des militants qui ont fait un happening pour protester contre sa venue parce que il semblerait qu'on reproche à Paul Watson des prises de position passées politiques. Et le service d'ordre a dû intervenir pour virer des gens, voilà. Je pense quand même que l'électorat de gauche est beaucoup plus pour l'union qu'ils ne sont représentés dans les partis. J'en sais rien, je peux pas parler pour l'électorat de gauche, hein, je le connais pas, mais je me dis qu'il y a une aspiration à l'union qui est historique et qui a fait du bien à une partie du peuple de gauche. C'était le moment de la NUPES et le moment du NFP, où là tout le monde était bien content qu'il y ait une union, et que la désunion fait plaisir à personne, quoi. Chacun dans son couloir de nage, les partis qui se font la tronche, qui veulent pas s'adresser la parole. L'électorat de gauche est, à mon avis, bien moins clivé, bourrin, postural que leurs représentants élus, juste mon avis. Peut-être, peut-être, peut-être. Oui, non, mais sans doute, j'en sais rien. Je pense que... C'est effectivement, quand tu te rapproches des partis politiques, tu as tendance à rencontrer des gens un peu plus obtus, un peu plus bourrins, un peu plus monomaniaques. L'unité, ça se fait derrière moi et derrière personne d'autre. Et quand tu t'en éloignes, tu as des gens qui sont beaucoup plus mesurés dans leur critique envers les partis, envers le camp d'en face, etc. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas nouveau, hein. On s'en fout du parti au pouvoir, son nom sur l'étiquette en fait, on veut surtout le programme du NFP. Ouais, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a d'autres qui voient les choses différemment en disant que la garantie pour que le NFP, que le programme du NFP s'applique, c'est que ce soit les insoumis qui soient au pouvoir. Un jour. Tiens, j'ai entendu, j'ai écouté ce matin, j'ai écouté François Hollande dans son interview sur BFM TV, dans son bureau rue de Rivoli. François Hollande qui plaide pour une candidature autonome du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, qui pourrait se faire typiquement, tiens, quelqu'un qui est anti-union, c'est François Hollande, qui veut l'autonomie du Parti Socialiste. Il est sur une ligne autonomiste à très affirmée, François Hollande. Il veut que le Parti Socialiste ouvre ses bras en direction de Raphaël Glucksmann et de Bernard Cazeneuve. Et il plaide en tout cas pour une candidature autonome. L'un des arguments de François Hollande, qui est pas complètement faux, c'est de rappeler que sa victoire à l'élection présidentielle en 2012 s'est faite sur une candidature autonome du Parti Socialiste. Sans la France Insoumise, sans les écolos, qui ont chacun présenté une candidature, quoi. Tant mieux, chacun son candidat et les électeurs trancheront. Ouais, après, il y a une chance que les électeurs ne tranchent pas en faveur de la gauche. Hein. mais c'est intéressant, c'est exactement la discussion qu'on avait avec Alexis Corbière, qui pour le coup est un unioniste, comme vous le savez. Alexis Corbière qui plaide pour le maintien de l'union du nouveau Front Populaire et qui aille jusqu'à une dynamique vers 2027 de candidature unique pour toute la gauche, incluant les insoumis et les socialistes. Pas sûr qu'ils y arrivent, mais en tout cas, c'est ce pour quoi il plaide. Et lui disait que... le risque de la division, c'est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ce qui n'était pas le cas en 2012. En 2012, à l'époque, il fallait dégager Nicolas Sarkozy du pouvoir. On n'était pas encore dans une logique de menace de l'extrême droite au pouvoir. Alors que là, aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui... c'est ce qu'explique Alexis Corbière. A raison ou pas, j'en sais rien, mais que... que le contexte politique est celui de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qui est plus que possible par les urnes. Mmh. Est-ce qu'il va se représenter Hollande? Moi, je dis que c'est pas impossible, hein. M'étonnerait pas que François Hollande il ait envie d'y retourner. Après, est-ce qu'il va y arriver à y retourner? J'en sais rien. Quelles seront les modalités de décision, etc. Je sais pas. Mais. Il va flop? J'en sais rien. Ça dépend de la dynamique et ça dépend de quelles sont les candidatures qu'il y a autour de lui. Mais je suis d'accord avec l'intervention de Emilio dans Backseat qui disait que ce vers quoi on se dirige, c'est une candidature des Insoumis, une candidature socialiste et entre les deux une candidature unioniste. Soit écolo, soit je sais pas qui, François Ruffin, peu importe. C'est le pire pronostic, ça. Ah bah ça dépend du camp d'en face et de l'union du camp d'en face. Mais avec un Rassemblement national à 30%. Ça va être compliqué, hein. Préparez-vous à faire le barrage républicain au second tour, hein. Tu penses que la candidature unioniste rejoindrait naturellement l'un des deux pôles? Ça dépend de la méthode qui est choisie. Pour l'instant, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée à Alexis Corbière, j'aurais dû lui poser, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'inclinaison naturelle des unionistes, c'est de faire une campagne, c'est de faire une primaire avec les écologistes et les socialistes qui sont les seuls à être ouverts à cette dynamique commune. Les insoumis ne veulent pas. Les insoumis, ils ont déjà un candidat commun qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est le nôtre, il est à nous, c'est notre candidat. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les unionistes se dirigent plus vers un scénario d'une primaire qui serait ouverte aux socialistes, aux écologistes. À tous les gens qui, à toute la gauche qui n'est pas à la France insoumise, quoi. Peut-être avec les communistes aussi. Ça m'étonnerait parce que les communistes aussi, ils sont partis sur une liste, sur une candidature autonome. Avec trois candidats à gauche, c'est mort pour le second tour. La gauche toute réunie fait environ 22%. Des candidats séparés vont se morceler ce pourcentage. T'as un argument contre ce que tu viens de dire, qui est historique, hein, qui est un argument qui est mobilisé, alors, en fonction du moment par les insoumis, pas toujours, mais ça dépend, qui est de dire, il y a toujours eu plusieurs candidats de gauche à chaque fois que la gauche a gagné. En 81, 97 c'est particulier, c'est une élection législative avec une gauche plurielle, en 2012, bon. À chaque fois, il y avait plusieurs candidats de gauche. Donc c'est pas un blocage à l'union. Bon après, tu as un contre-exemple qui est Lionel Jospin en 2002. Disons que effectivement, Lionel Jospin en 2002, ça a laissé un mauvais goût dans la bouche de tout le monde. Mauvais souvenir, mauvais souvenir, mauvais souvenir. L'union, c'est bien, mais représenter les différentes convictions de temps en temps, c'est bien aussi. Ouais, les élections législatives à ce moment-là. Les élections législatives au scrutin proportionnel. C'est à ça que ça sert. En face, il y aura plusieurs candidatures. Si Marine Le Pen reste inéligible, on peut imaginer des ambitions individuelles plurielles au RN. Alors, au RN, je pense pas. Je pense pas qu'au sein du Rassemblement National va y avoir un schisme comme celui qu'on a connu à la fin des années 90 avec Bruno Maigret, etc. Je pense qu'on aura toujours Jordan Bardella qui sera le plan B, le backup et le candidat. En revanche, à l'extrême droite ou à la droite, on pourra avoir des couteaux qui s'aiguisent avec d'autres candidatures qui sont proches de Marine Le Pen. Je pense notamment à un Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a quand même fait 7%, ce qui n'est loin d'être négligeable. Il n'a pas empêché Marine Le Pen d'être au second tour, mais il a quand même fait 7%. Et un Bruno Retailleau. Ou un Éric Ciotti, oui, ou un Éric Ciotti. Éric Ciotti, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il est allié du Rassemblement National, donc il est plutôt compliqué pour lui de se présenter contre. Mais Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, elle est revenue dans le giron du Rassemblement National. Enfin, proche. Elle a quitté Éric Zemmour. Avec pertes et fracas. Donc, pour moi, elle n'est pas candidate. Si les Zemmour, Knafo, Marion Maréchal Le Pen rejoignent le RN, c'est finito. Ciotti, MLP, Zemmour, c'est 40% des votes en 2022. Ouais, bien sûr. Et aux européennes aussi. Hein. La question compliquée, c'est combien de candidats ensemble Horizon Les Républicains. Alors déjà, est-ce que ensemble Horizon et Les Républicains vont rester alliés? Je vous rappelle qu'ils sont alliés depuis un an. Il n'est pas impossible que Les Républicains se barrent et ne rejoignent pas le gouvernement Le Cornu. Si Le Cornu fait des ruptures en se dirigeant vers la gauche avec par exemple une taxation des grandes fortunes, il est possible que Les Républicains reprennent leur autonomie derrière une candidature Retailleau. Ensuite, pour ce qui est du groupe, pour ce qui est du camp macroniste au sens large, bah là, t'as raison, il y a du monde. Parce qu'on a, on a Renaissance avec Gabriel Attal, on a Horizon avec Édouard Philippe, et on a le Modem avec François Bayrou. Trois candidatures possibles. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Ou est-ce qu'ils vont chacun présenter leur truc? Est-ce que vous pensez que c'est une victoire de la gauche s'il y a une alliance entre le PS et le centre? Bah, en tout cas, c'est ce pourquoi a plaidé François Hollande dans son interview à BFM TV. François Hollande a expliqué qu'il fallait, en gros, que le Parti Socialiste récupère l'électorat macroniste, déçu du macronisme par son caractère trop droitier, et que cet électorat-là doit revenir dans le giron du Parti Socialiste. Le centre-gauche doit revenir à gauche. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Hein. Je vois pas pourquoi ils sont pas déjà revenus à gauche. Que penses-tu de la théorie qui dit que comme Bardella est incapable d'être un candidat sérieux, le RN pourrait se ranger derrière Retailleau? Ah mais je crois pas du tout que le RN considère que Bardella n'est pas un candidat sérieux. Bardella est le candidat pour devenir Premier ministre de la République française du Rassemblement National. Bardella a été tête de liste aux élections européennes, il a largement remporté l'élection avec plus de 30% des voix. Bardella est un candidat parfaitement sérieux pour remplacer, le cas échéant, Marine Le Pen en cas d'inéligibilité confirmée par la justice. Puis après, il y en a d'autres, il y a Sébastien Chenu et tout. Non, non, mais attendez, je crois pas du tout que le RN va se ranger derrière le parti d'à côté, les Républicains, d'autant que je vous rappelle que les relations entre les Républicains et le RN sont délétères. Ces gens-là ne s'entendent pas du tout. Ces gens-là se font la guerre depuis des années et des années. Marine Le Pen gratte des parts de marché de plus en plus sur, sur les Républicains. C'est pas l'heure de se ranger derrière les Républicains. Hein. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous pensez que les Insoumis vont se ranger derrière le PS? Non, il y a peu de chance. C'est pas le genre. Bon, après, faut voir, mais non. Bardella peut se faire cook par n'importe quel journaliste ou politique sérieux. Oui, mais c'est pas un problème, ça. Pour Bardella, ça l'a pas empêché de faire une campagne européenne qui a très bien marché. Faut que vous compreniez que pour les électeurs de Jordan Bardella, c'est pas important. À l'inverse, Jordan Bardella, il présente bien, il est plutôt beau gosse, il a un costume, il fait sérieux. Il parle bien. Ben voilà, si tu demandes à un électeur du RN ce qu'il pense de Jordan Bardella, il va te parler de ça. Il aime bien. Mais c'est exactement comme Jean-Luc Mélenchon. Les fans de Jean-Luc Mélenchon adorent Jean-Luc Mélenchon. Ils trouvent qu'il est génial, le vieux, il est trop bien, etc. Bon, les gens qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon détestent Jean-Luc Mélenchon. Ils en ont peur. Genre vraiment, c'est un repoussoir absolu dès qu'il ouvre la bouche, etc. Bon, ben voilà. Pour l'électorat de droite, pour l'électorat de Jordan Bardella, c'est un excellent atout. Mais factuellement, il est mauvais. Qui ça? Bardella, j'en sais rien, il a jamais été au pouvoir. Et je serais vous, je ne tablerai pas trop sur ça, parce qu'il risque d'être au contraire tout à fait efficace dans la mise en place de sa politique. Bardella, il évite surtout les débats comme Le Pen. Bah ouais, mais ça lui réussit. Le Rassemblement national cultive son caractère anti-système, en marge du système politique et médiatique. Et il cultive ça énormément. J'ai re-regardé, là j'étais en train de préparer le live d'aujourd'hui, j'ai regardé le discours de Marine Le Pen à Bordeaux, puisque c'était les journées d'été du Rassemblement National, avec le discours de clôture de Marine Le Pen. J'ai pas eu le temps encore d'écouter celui de Jordan Bardella, il faudrait que je l'écoute ce soir. Marine Le Pen, bon déjà, elle mise pas un euro sur le cornu. Je sens que ça va censurer sec très rapidement, le RN. Et d'autre part, elle, dans son discours, on retrouve les classiques historiques du Rassemblement National sur la condamnation du système médiatico-politique. Tous ces gens-là nous détestent, tous ces gens-là veulent nous empêcher de prendre le pouvoir pour mettre en œuvre nos idées qui sont les seules bonnes pour les Français, on est pragmatique, etc. On lui a retiré sa dissolution au RN, voilà pourquoi ils sont pas contents. Mais le RN, si vous placez de la perspective qui est celle du RN, le RN condamne ce qui s'est passé entre les deux tours des élections législatives, c'est-à-dire le Front républicain. Le RN estime que le Front républicain, c'est la preuve que les macronistes et la gauche sont copains-copains. La preuve, ils votent les uns pour les autres. Ah bah forcément. Les antifascistes de salon, qui veulent empêcher le Rassemblement national d'arriver en pouvoir, ils sont prêts à se soutenir les uns les autres. Et les macronistes qui retirent des candidats pour laisser des insoumis être élus. Ah bah derrière, ça fait semblant de pas s'aimer sur les plateaux, mais la vérité, c'est que au moment de choisir, vous n'hésitez pas à vous retirer en faveur des autres. C'est bizarre que le RN veuille une dissolution alors que Marine Le Pen est inéligible. C'est quoi la strate? Marine Le Pen ne fait pas de son sort personnel l'alpha et l'oméga de la position du RN en faveur ou pas d'une dissolution. Sous-entendu, que Marine Le Pen ne soit plus députée demain matin, c'est pas grave. Marine Le Pen n'a jamais eu vocation à être députée, présidente de groupe, etc. Marine Le Pen, elle a vocation à être présidente de la République. Donc ce qui compte, c'est la candidature en 2027. Et si pour ça, il faut attiser la difficulté politique, le blocage institutionnel par des dissolutions, etc., Marine Le Pen, elle est prête à le faire. Si une dissolution permet au RN de progresser en nombre de sièges à l'Assemblée, Marine Le Pen, elle ne dit pas non, hein. Si le prix à payer pour ça, c'est qu'elle soit plus députée, c'est pas très grave, hein. Est-ce qu'elle ne risque pas d'être marginalisée? Bah, pas plus que Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas député, que je sache. Vous voyez bien que ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de diriger un parti. Et Marine Le Pen pense que les sondages et les votes sont plus favorables en cas de dissolution. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Il y a un moment, bah je veux dire, si on analyse froidement les choses, la gauche est bien partie pour ne pas faire d'alliance en cas de dissolution. Donc, dans toutes les circonscriptions, il y aura un candidat LFI, il y aura un candidat socialiste, il y aura peut-être même un troisième candidat écolo, je sais pas quoi. Voilà. Donc, la gauche va s'éliminer d'elle-même du second tour de plein de circonscriptions. Le RN va se qualifier au second tour. Et là, deuxième étage de la fusée, le RN parie sur un reflux du Front républicain. Sur le fait que ça a marché une fois, mais pas deux. Les Français ne retourneront pas voter pour un candidat qu'ils n'aiment pas pour faire barrage au Rassemblement national. Et on en avait déjà parlé, il y en a plein dans le chat qui ont l'intention de ne pas faire Front républicain contre le RN à nouveau. Une fois, mais pas deux. Front républicain. Le Front républicain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de voter pour un candidat que tu n'aimes pas politiquement, mais dans le but de faire barrage à l'élection d'un autre candidat que tu aimes encore moins, et notamment des candidats qui sont dangereux pour la République. Front républicain, ça remonte à l'époque où il fallait protéger la République contre les bonapartistes, contre les fascistes, etc. Donc contre l'extrême droite, pour empêcher l'extrême droite au pouvoir, faire Front républicain, c'est aller voter pour le candidat le mieux placé contre lui, quel que soit ce candidat, même si c'est un macroniste, même si c'est un insoumis, etc. C'est différent du cordon sanitaire? Oui, c'est différent du cordon sanitaire, parce que le cordon sanitaire, ça n'implique que la droite. Le cordon sanitaire, c'est entre la droite et l'extrême droite, enfin c'était entre la droite et l'extrême droite, et ça empêchait les alliances entre les héritiers de la résistance et les héritiers de la collaboration. Est-ce qu'il y a un seuil d'abstention qui annule le vote? Non. Ça a disparu avec quoi ou qui? Le cordon sanitaire? Cordon sanitaire, ça a factuellement pas disparu, puisque le Rassemblement national et la droite ne sont pas alliés dans les élections. Ça pourrait changer. Je vous invite à regarder de près les élections municipales notamment, où on pourrait voir fleurir des alliances locales entre des gens issus des Républicains et des gens issus du Rassemblement national. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a deux choses. Il y a une... comment dire ? Depuis les années 2000, la droite de gouvernement, le RPR, l'UMP, puis les Républicains, a tendance à se rapprocher de plus en plus des thèses de l'extrême droite, du Rassemblement national, notamment sur les questions migratoires et sur les questions d'insécurité. Ça a été l'œuvre notamment de Nicolas Sarkozy entre 2005-2006 et sa présidence de 2007 à 2012, où on a vu une droite se rapprocher sur des thématiques et sur des politiques menées de l'extrême droite. Et le deuxième mouvement qu'on a vu, c'est la stratégie dite de dédiabolisation de Marine Le Pen lorsqu'elle est arrivée à la tête du Front National, qui a décidé de couper avec la tradition, disons, révolutionnaire d'extrême droite historique de son père Jean-Marie Le Pen et se rapprocher d'une posture de droite de gouvernement crédible, costume-cravate, programme policé, évacuation des éléments les plus gênants et les aspects les plus fachos historiques du parti, etc. Donc, on a un rapprochement entre la droite et l'extrême droite qui fait dire, ou qui fait penser, le fait qu'on se dirige vers la fin du sacro-saint cordon sanitaire. Peut-être que demain, les héritiers du gaullisme et les héritiers de la collaboration vont faire des accords électoraux. Peut-être, on verra. La droite de Ciotti l'a déjà fait. Éric Ciotti a franchi le Rubicon. Mais je vous rappelle qu'Éric Ciotti s'est fait virer à coup de pompe dans le cul de son parti. C'est pour ça que je me méfie un peu. Je sais que c'est très tentant de dire ah, les Républicains, c'est devenu des fachos et tout, regardez Retailleau, machin. C'est plus subtil que ça. C'est plus complexe que ça. Les Républicains, ils sont ambivalents sur la question des rapports avec le Rassemblement National. Ils sont... voilà. Quand Éric Ciotti a annoncé sa volonté de se rapprocher de Marine Le Pen entre les deux tours des élections européennes, législatives, il a été viré manu militari par le bureau politique qui ne voulait pas entendre parler d'un accord avec Marine Le Pen. Donc, et on est encore là-dessus. Avant le premier tour, je me souviens plus, c'était quand Éric Ciotti, quand il a tendu la main à Marine Le Pen, c'était à quel moment? Je me souviens plus. C'était plus une politique politicienne que de vrais désaccords. Écoutez, j'en sais rien. Vous pouvez détester LR si vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en tiens aux faits et j'ai écouté ce que disaient à l'époque les ténors des Républicains, notamment Annie Genevard, y compris Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau aussi, sur le fait qu'ils disaient qu'il est hors de question de faire une alliance avec Marine Le Pen. C'était l'année dernière. Sur quoi les Républicains aujourd'hui et le RN dédiabolisés ont-ils des divergences de programme? Sur la question migratoire et sur la remise en cause du droit du sol, par exemple, la préférence nationale et toutes ces conneries, les Républicains ne sont pas sur ce terrain-là. Sur les questions fiscales et de rapport aux entreprises, les Républicains sont plus libéraux que le Rassemblement national, qui veut une augmentation des petites retraites, et qui veut une augmentation de certaines dépenses publiques, etc. Pas tout à fait la soupe des Républicains. Enfin voilà quoi. Sur l'Europe et le libre-échange, oui, sur l'Europe, ça clairement sur l'Europe, les Républicains, alors ça a un peu changé. Moi je trouve que ça a changé, mais si je demandais à Annie Genevard, elle me dirait que ça n'a pas changé. Ou à Othman Nasrou. Les Républicains, historiquement, c'est un grand parti européen. C'est-à-dire, c'est les héritiers de l'UMP. L'UMP, c'est la fusion de l'URPR et de l'UDF. C'est pour l'Europe, pour la construction européenne, la place de la France dans l'Europe, etc. Marine Le Pen, quand même une eurosceptique à l'ancienne. Hein. Elle est pour la remise en cause de la contribution française au budget de l'Union européenne. Pas tout à fait le même sujet que les Républicains, quoi. Ils ont abandonné le Frexit. Ouais, le RN a abandonné la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro, qu'il défendait encore dans les années 2000. C'est vrai, c'est vrai. LR et le PS réduisent leur audience, mais gardent un gros ancrage local. Les municipales peuvent-elles aboutir à perdre cela? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que depuis 2017, on assiste à un affaiblissement des grands partis traditionnels, le PS et les Républicains, au niveau national, notamment dans les scores aux élections présidentielles. On l'a vu avec les candidatures d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse. Des partis qui étaient historiquement des machines à fabriquer des présidents de la République sont aujourd'hui complètement à la ramasse sur les élections présidentielles. En revanche, on constate une forte survie de ces gros appareils politiques traditionnels dans les élections locales et notamment dans les élections municipales. Il y a des centaines de mairies socialistes, il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de mairies Les Républicains, ça reste des partis qui sont assez structurés, très bien ancrés localement. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on a une vie politique à deux vitesses. On a une vie politique nationale qui est marquée par des personnalités fortes, des leaders charismatiques. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Ils sont les trois leaders des deux dernières élections présidentielles quand même. Et à côté de ça, une vie politique plus locale, où là, tu as une vraie survivance du Parti Socialiste et des Républicains, comme si c'était des marques qui rassuraient beaucoup les électeurs. Sur le sérieux, la capacité à bien gérer, etc. Le socle est encore bon. En tout cas, dans les élections locales. En tout cas, dans les élections locales. Donc, c'est intéressant. Est-ce que tu peux transformer un socle aux élections locales en une bonne candidature à l'élection présidentielle? Moi, je pense pas. Confère le Parti Socialiste avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, élue locale de la plus grande mairie de France, de la capitale en plus. Réélu triomphalement à chaque fois et tout, donc plutôt une candidature solide a priori. Bon, bah, candidate à la présidentielle, ça va pas marcher. Donc. Je crois que les électeurs n'ont rien à branler du caractère élu local de leur candidat à l'élection présidentielle. Marine Le Pen n'est pas une élue locale. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un élu local. Emmanuel Macron n'est pas un élu local. Ils font tous les trois aux alentours de 20%. Glucksmann est-il un élu local? Non. Non, Raphaël Glucksmann, c'est un élu européen. Comment tu expliques le fait que LFI ne cherche pas les voix des campagnes? Bah, c'est à LFI qu'il faut demander. À LFI te répondra que leur stratégie pour l'instant, c'est de maximiser l'électorat abstentionniste dans les quartiers populaires. C'est leur strat, qui a été très très bien expliqué par Jean-Luc Mélenchon l'année dernière. Est-ce que tu as des informations sur les membres du nouveau gouvernement? Non, j'ai aucune info. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête et dans les petits papiers de Sébastien Lecornu pour la nomination d'un nouveau gouvernement. J'en sais foutre rien. Et de toute façon, il n'y a pas de session parlementaire avant le 1er octobre. Donc on est tranquille. J'ai un article du Figaro qui fait le point sur les consultations menées par Sébastien Lecornu, notamment à droite. De Retailleau à Wauquiez, Lecornu multiplie les rendez-vous à droite avec Bruno Retailleau sur la photo. Bruno Retailleau qui est à la tête des Républicains, qui se verrait bien rester, qui se verrait bien rester ministre de l'Intérieur, mais qui, à mon avis, a un petit peu le cul entre les deux chaises, parce que je ne suis pas persuadé que les Républicains meurent d'envie de faire partie d'un gouvernement qui rejoindrait le Parti socialiste d'un point de vue programmatique sur des marqueurs très à gauche, comme par exemple la taxation des plus hauts revenus. On verra. Les Républicains mettent en garde contre la tentation de concessions excessives au PS quand le Premier ministre prend soin de rencontrer les ténors du parti dont il est issu. S'adresser à gauche sans oublier la droite, telle est l'équation infernale de Sébastien Lecornu, qui entre dans une nouvelle semaine de négociations en vue d'un compromis. Triple objectif, former un gouvernement, résister à la censure et faire adopter un budget. Eh bah, bien, bon courage, mes couillons. Dimanche soir, le nouveau locataire de Matignon, Bruno Retailleau, se sont entretenus à la demande du premier. Un rendez-vous long de 2 heures pour les deux hommes, alors que le ministre de l'Intérieur est démissionnaire depuis la chute de François Bayrou. L'entretien s'est tenu à Beauvau pour des raisons de commodité et les questions de sécurité étaient au cœur de l'échange. Une réunion de travail, confirme-t-on pudiquement côté Matignon. Ouais, tu parles. Au menu. Les bases d'un accord acceptable par les Républicains, suffisamment en tout cas pour soutenir le locataire de Matignon et participer au gouvernement. L'entente est bonne, rapporte sans enthousiasme une source LR. Et la mise au point dominicale rassurante, alors que les derniers signaux envoyés au Parti socialiste commençaient à inquiéter le patron de la droite. Un ténor du parti assure avoir eu l'impression que Sébastien Lecornu comptait s'appuyer sur le président des Républicains, qui ne s'interdit rien, y compris un refus d'intégrer la future équipe de Sébastien Lecornu. On n'est pas prêt à lâcher l'opinion publique, avertit un pilier des Républicains. C'est vrai que les Républicains, ils sont dans une dynamique plutôt favorable du point de vue de l'opinion publique depuis quelque temps. C'est pas le moment de lâcher la rampe. C'est pas le moment de s'associer à un truc impopulaire avec la gauche, là. Mieux vaut se barrer avec les honneurs de l'opinion publique que de rester coûte que coûte dans un attelage qui va pas dans la bonne direction, quoi. En parcourant la feuille de route du locataire de Matignon, fixée dans son entretien à la presse régionale ce week-end, le président LR n'a pas manqué de relever l'absence de mesures sur l'immigration. La suppression des 2 jours fériés n'aura guère suffi à convaincre. Ce n'est pas une performance, hein. Personne, ni à droite ni à gauche, n'en veut, grince un poids lourd. Oui, ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Puisque le pays est à droite, a plaidé le chef des Républicains, il est crucial de gouverner à droite. Sébastien Lecornu s'est montré attentif et plutôt en phase avec les constats du ministre qui a renouvelé sa perception d'une majorité nationale dans le pays en attente de solutions concrètes, sachant que la consolidation de la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale feraient consensus aujourd'hui selon lui. Certains textes seraient prêts, comme le Beauvau de la sécurité ou certaines mesures visant à consolider la sécurité du quotidien. Ouais, il essaye de garder Retailleau, quoi. Enfin, selon les informations du Figaro, Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau n'ont pas abordé la question des portefeuilles ministériels. D'abord le contenu, précise un cadre LR interrogé ce lundi matin. À ce sujet, Laurent Wauquiez, qui ne s'interdit rien non plus, dont une entrée au gouvernement, sera bientôt reçu par le Premier ministre. Plusieurs sources indiquaient un rendez-vous lundi soir, ce qu'à Matignon, comme du côté de l'entourage du patron des députés LR, l'on ne confirmait pas. Le Premier ministre verra bien sûr tous les présidents de groupe très fréquemment, mais pour l'instant, aucune date n'a été calée avec Laurent Wauquiez. A-t-on fini par se contenter de justifier côté Matignon ? Ça me ferait mourir de rire que Laurent Wauquiez soit dans le même gouvernement que Bruno Retailleau. Allez, amusez-vous bien. En attendant, le Premier ministre, relève-t-on chez LR, accorde plus de soins que François Bayrou. L'occasion, glisse un député macroniste, de mieux comprendre ce que Wauquiez a en tête. Du côté du groupe Droite Républicaine qui organise une petite rentrée parlementaire mardi à l'Assemblée, on ne voit guère comment le Premier ministre pourrait se passer des réalités d'un socle commun au sein duquel la droite s'opposera à tout dérapage fiscal, même si plusieurs députés semblent conscients de l'obligation d'accepter des compromis acceptables. Acceptables ? C'est-à-dire très éloignés de certaines propositions socialistes. Elles vont être bien les négos, elles vont être bien les négos. Tu le sens là, les républicains et les socialistes qui vont jamais réussir à se mettre d'accord sur une politique fiscale et sur un budget. Et bah c'est Sébastien Lecornu entre l'enclume et le marteau. Pourtant, certains étaient rassurés lundi matin en lisant les déclarations de François Hollande dans les colonnes du Figaro. Il semble être sur une approche plus raisonnable et plus responsable que celle d'Olivier Faure ou de Boris Vallot. Je n'imagine pas les socialistes pousser trop loin leur discours. S'ils veulent retrouver un statut de parti de gouvernement, il faut qu'ils arrêtent de tenir des discours excessifs impliquant des dépenses supplémentaires. Prévient Nicolas Forissier, député LR de l'Indre. Pour l'économiste Olivier Babot, de l'Institut Sapiens, qui doit s'exprimer mardi devant les députés de la droite républicaine, la droite devrait veiller à ne pas se laisser abuser par des constats socialistes extrêmement biaisés et idéologiquement orientés. Taxer les riches, tout ça. Il perçoit d'ailleurs un jeu politique perdant sur le plan électoral et invite les LR à garder leur position contre des solutions catastrophiques. Et si la droite plaide l'urgence budgétaire pour faire valoir quelques inflexions, l'analyste estime que la seule issue possible passerait nécessairement par de très très grosses concessions de l'État. Olivier Babot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un économiste très libéral. Très 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 libéral. Lui, tout ce qui est impôt, c'est... Oula, quelle horreur. Il n'était pas à la fête de l'UMA, Olivier Babot, pour ceux qui se posent la question. Si des gestes devaient être faits par la droite en direction de la gauche, quelles seraient les marges de manœuvre ? Chez LR, on perçoit quelques efforts positifs. Au niveau régalien d'abord, parce qu'on veut croire que les socialistes en quête de légitimité sont prêts à reconnaître les fortes attentes du pays en matière de sécurité et de maîtrise des flux migratoires. Il y a ensuite l'axe budgétaire, alors que les Républicains discutent beaucoup du volume global de l'effort. Si la barre des 44 milliards appartient au passé, certains estiment que l'effort financier minimum serait possible à hauteur de 30 milliards. Cette réduction pourrait stabiliser la croissance et la consommation. Il y a une alchimie à trouver, mais on n'y coupera pas, souligne-t-on au sein du groupe de la droite républicaine. Sans valider l'improbable taxe Zuckmann, la piste d'un effort fiscal venant des grandes fortunes et des grandes entreprises n'est pas totalement écartée, elle aussi. Ah ! À condition que cela ne pèse pas sur le patrimoine. Un député LR explique. Cette exigence fiscale doit impérativement s'asseoir sur des vraies économies structurelles, sinon il sera impossible de créer un mouvement de croissance dans ce pays qui est déjà le plus fiscalisé du monde. Enfin, on estime à droite que personne ne peut s'opposer à la lutte contre la fraude et les dérives de l'optimisation fiscale, à condition là encore que le projet budgétaire soit guidé par une vision globale de restauration des comptes publics et des baisses de dépenses. La morale de l'histoire, c'est que les républicains sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit aux socialistes pour leur faire une place dans le socle commun. Ils sont du bout des lèvres, ils sont prêts à accepter une forme de taxe Zucman à condition que ce soit compensé par des économies de dépenses publiques très importantes. Et à mon avis, si les économies, c'est à aller chercher sur les aides publiques aux entreprises, LR, ils sont pas prêts à accepter. J'ai lu l'interview de François Hollande dans le Figaro, sensiblement similaire à ce qu'on a entendu sur BFM TV de la part de l'ancien président de la République. Effectivement, François Hollande, il dit que la taxe Zucman, si vraiment c'est bloquant pour la droite, on peut ne pas l'appeler comme ça. On peut changer son nom et discuter des modalités de calcul, mais que fondamentalement, il allait falloir y passer. En tout cas, il n'y aurait pas d'accord avec les socialistes s'il n'y a pas de taxes sur les plus grands patrimoines, quoi. Ou les plus hauts revenus, ça dépend. On peut discuter. Mais en tout cas, les républicains trouvent que les socialistes sont beaucoup trop mélanchonisés. Et qu'on ne peut pas travailler avec des irresponsables pareils qui font des grands discours à la fête de l'UMA. Il faut être sérieux. Et le sérieux budgétaire, ça passe par des économies sur l'État. La droite n'aime pas la gauche et l'eau, ça mouille. Exactement. Il faut être souple pour dire vouloir négocier et ne lâcher sur rien. C'est ça. Non, mais Sébastien Lecornu, en tout cas, qui a commencé ses négociations avec la droite. Ça paraît complexe. En tout cas, je note dans cet article la possible entrée au gouvernement de Laurent Wauquiez. Ce qui me ferait mourir de rire. C'est bien beau de vouloir faire des économies, mais il ne reste plus beaucoup de services publics à vendre. Ah non, mais quand on dit faire des économies, vous savez, ça peut aussi être sur l'aide aux entreprises. Hein. Sur les 200 milliards, là. On peut réduire un peu. Ça, c'est des économies. On peut commencer par conditionnaliser les aides. La gauche, c'est la banqueroute et la droite, c'est l'émeute. Ouais, alors, ça aussi... Vieux truc, vieille rengaine, consiste à dire que la gauche ne sait pas gérer l'État. La gauche est dépensière. La gauche font n'importe quoi. Le sérieux budgétaire, les chiffres, c'est des gens en costard, c'est des gens sérieux, c'est la droite. La droite, c'est des bons gestionnaires, et la gauche, c'est des mauvais gestionnaires. C'est faux. C'est factuellement faux. Quand on regarde la gestion des collectivités territoriales, par exemple, entre la gauche et la droite, c'est assez similaire. Et du point de vue de l'État, les deux seules fois que la France s'est rapprochée de l'équilibre budgétaire en termes de déficit public, c'était sous Lionel Jospin et sous François Hollande. Mais la gauche a tendance à mieux tenir les rênes économique, budgétaire en tout cas, que la droite. Fabien Gay est très diplomate, tout en allant au charbon avec le MEDEF sur la question des aides aux entreprises. Ah, mais il est incroyable, Fabien. Fabien Gay est un... Et quelqu'un de formidable. J'arrive, 30 secondes de silence, on est bien chez Jean. Mais ça va, je vous lis. Je lis le chat. Parce que ça m'intéresse ce que vous avez à dire. Je serais chaud pour que tu nous parles un peu plus des équilibres budgétaires sous les différents présidents. Bah, le truc, c'est que les équilibres budgétaires, ils dépendent aussi en grande partie de la santé économique du pays, hein, du taux de croissance, du taux de consommation, consommation des ménages, etc. Les perspectives économiques jouent pour beaucoup dans la capacité à tenir les rênes. La droite, quand elle est au pouvoir, il lui arrive quand même souvent de faire face à des crises qu'on ne peut pas vraiment lui imputer, disons que c'est de leur faute. Emmanuel Macron, il s'est bouffé le Covid dans la gueule. Il a fallu faire 3 ou 4 budgets rectificatifs en une année pour ouvrir les robinets de dépenses. Et ça a fait déraper évidemment les comptes. Nicolas Sarkozy, il a eu la crise de 2008, la crise des subprimes. Pareil, c'est pas de sa faute, ça vient des États-Unis, ça fout le bordel. Crise des dettes souveraines, etc. Bon. François Hollande, il a eu les attentats. Les attentats, c'est pas budgétairement, c'est pas déterminant. Chirac a eu la bulle Internet. Bon, la bulle Internet, c'est les investisseurs qui ont perdu de l'argent, c'est pas... Enfin, j'ai pas le souvenir que ça a été une crise majeure pour laquelle l'État a dû sortir le chéquier, quoi. Chirac a eu le 11 septembre. Bah, c'était encore les socialistes hein, qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Plus pour très longtemps, je te l'accorde, plus pour très longtemps. Enfin, les socialistes, la gauche plurielle. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon était ministre. Mais on a dit qu'on n'en parlait pas trop de ça. Chirac a eu une mauvaise récolte de pommes. Chirac a évité l'Irak, donc potentielle crise financière avant l'heure. Ouais, je te rappelle qu'il y a eu des mesures de rétorsion quand même économiques des États-Unis envers la France. Hein. En 2003, quand la France a refusé de rejoindre la coalition internationale menée par les États-Unis pour envahir l'Irak, ça a coûté cher. Ça a coûté cher à la France. Enfin, ça a coûté cher. Les États-Unis n'ont pas apprécié. Et ils l'ont fait savoir. Les Freedom Fries. Exactement. Aux États-Unis, il y en a qui ont dit qu'il fallait renommer les French Fries en Freedom Fries. Parce qu'il fallait plus utiliser le mot French. Parce que les French, c'est plus des alliés. Et je crois qu'ils avaient menacé d'augmenter les taxes sur le camembert, sur le fromage au lait cru. Et sur le pinard. Il faut s'attendre à quoi, d'après toi, pour le 18 en termes de mobilisation? Je pense que le 18 va être une grosse journée de mobilisation, plus grosse que le 10. Alors, faut pas trop le dire à la fête de l'UMA, mais le 10, ça n'a pas été une très très grosse mobilisation. Hein. 200 000 personnes, c'est pas énorme. Mais ça peut être un début vers quelque chose. Je pense que le 18, à l'appel de l'intersyndicale, il y aura plus de monde. À voir si ça donne naissance à un mouvement d'ampleur qui dure dans le temps. Un mouvement qui dure, c'est la seule chose qui peut avoir de l'effet. Ouais. Exactement. Non, il faut non seulement un mouvement qui dure, mais il faut surtout un mouvement qui est soutenu par l'opinion publique. C'est un élément très important. Je pense que ce sera plus grand que le 10, mais effectivement, une seule journée de mobilisation, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça peut servir à marquer le coup. De toutes les manières, là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais avant le 10. C'est pas la première fois qu'on nous promet une rentrée sociale. C'est-à-dire combien de fois on l'entend tous les ans? Tous les ans, on nous promet, vous allez voir ce que vous allez voir en septembre. Bon. Ben, ça marche pas toujours, hein. Il y a déjà eu des mouvements, effectivement, d'ampleur et tout, mais il y a d'autres années où ça a fait une journée, flop. Faut des manifs le samedi entre celles des syndicats. Ouais, les manifs le samedi, ça avait bien souri aux gilets jaunes. C'est pas avec ce genre de discours qu'on mobilise les troupes. Ah, mais c'est pas mon rôle de mobiliser les troupes. Il faut éviter la casse pour gagner l'opinion publique. Ouais, c'est bon, c'est responsabilité partagée entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre aussi. La majorité ne veut pas être associée à LFI, et comme ils essayent de récupérer chaque manifestation, ce sera flop sur flop. Ils essayent pas de récupérer, ils soutiennent. Ils ont bien le droit. Et puis en plus, la manifestation du 18, c'est l'intersyndicale. C'est pas LFI. La frontière est mince. Oui, je sais. Excusez-moi, par pitié, pas de grève et de blocage le 31. Je dois prendre un avion de Paris pour le Japon. Oh, excuse-nous. Excuse-nous. Pardon. Excuse-nous de te déranger avec nos petites revendications. Pardon. Non, pas le 31 septembre, le 31 octobre, j'ai mal lu. 31 octobre. On annule tout. Ouais, on annule tout, on annule tout. C'est bon. Ah, et puis finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de les taxer, les hauts revenus? On verra ça l'année prochaine, hein. Ramène des sushis. J'avoue, ramène des sushis au moins. Rends-toi utile. Soutiens la grève. Mmh. Ne faites pas la taxe Zuckman, 2% c'est beaucoup, merci. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, les gens qui ont 100 millions de patrimoine, c'est pas énorme. Hein. Je veux dire, tout le monde a 100 millions de patrimoine. On va faire quoi? On va taxer tout le monde? C'est n'importe quoi. 100 millions. C'est marrant parce que, à force d'entendre parler de milliardaires, on finit par s'habituer à la notion de milliardaire, 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 etc. Mais on en oublie presque de s'extasier de ce que ça fait les gens qui sont en dessous des milliardaires. Et c'est 100 millions d'euros, ça me paraît délirant comme somme. Alors que c'est que dalle par rapport à un milliard. Mais 100 millions. 100. Déjà 1 million, c'est beaucoup. 100 millions. Tu sais ce que ça fait 1 million, Jean? Non, non, mais ouais, j'essaye d'imaginer ce que ça fait 1 million. Je me dis, backseat, une saison de backseat, ça coûte 400 000 euros à financer. Merci pour vos dons d'ailleurs, c'est grâce à vous. Enfin, j'ai des annonces à vous faire bientôt d'ailleurs sur backseat. Donc je me dis 400 000, ouais, tu fais deux fois, tu fais un peu plus de deux fois backseat, ça représente un volume qui est 1 million d'euros. Je vois à peu près ce que ça représente. Mais alors de là, le posséder, l'imaginer sur mon compte en banque, j'y arrive pas. Donc déjà, 1 million, ça me demande une réflexion. Mais alors 100 millions? C'est de patrimoine, hein, de choses que tu possèdes. Des appartements, des maisons. 100 millions. Des actions, des entreprises. Ouais. Non, non, mais je trouve ça dur. Je trouve ça dur de se matérialiser ce que représente le fait d'avoir un patrimoine de 100 millions d'euros. Et enfin, je regarde. Je crois que l'appartement où j'habite, alors je suis pas propriétaire, hein, mais je crois que l'appartement où j'habite, il coûte un demi-million d'euros. C'est 500 000 balles à peu près. Donc c'est deux apparts comme ça, 1 million. $100 millions placés à 0,7%, c'est minimum 60 000 euros par mois toute ta vie. C'est-à-dire que t'es rentier, mais t'es rentier sa mère, quoi. Tu touches 60 000 balles par mois juste avec le placement de tes 100 millions. Et ben avec ça, t'es bien. La taxe Zuckman est illogique et à toujours mettre en opposition les gens, on n'améliore pas le fond du problème. On n'améliore peut-être pas le fond du problème, mais on ramène 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État chaque année. Ce qui est plutôt utile. Tu peux être rentier et très bien vivre avec 700 000 balles. Ah non, mais je te crois, hein, je te crois, je sais pas, j'ai pas 700 000 balles. Mais non, oui. Tu peux être rentier et ouais. Il y a 605 centimillionnaires recensés en France. Donc il y a 600 personnes qui gagnent au moins 100 millions d'euros. Non, 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 mais je reconnais, c'est spectaculaire. qui ont, pas qui gagnent. Non, qui ont, oui, qui ont, pardon, qui possèdent 100 millions. Pas qui gagnent 100 millions, non, c'est sûr. Faut pas déconner non plus. Elon Musk qui gagne 100 millions. Peut-être une fois par jour en plus. J'en sais rien. Un rentier qui consomme bien, c'est utile. S'il économise, il tue le système. Un smicard qui consomme aussi, c'est bien. Je ne veux pas faire mon économiste de comptoir, mais... Quand les gens sont trop pauvres pour s'acheter à bouffer, c'est pas bon. Ni pour le système, ni pour l'économie, ni pour la morale. Les smicards consomment plus que les ultra-riches en proportion de leurs revenus. Oui, en plus, c'est vrai. Les pauvres consomment plus que les riches. Donc ouais, dans l'argument de la consommation, c'est pas le bon. C'était Sophie de Menton, Sophie de Menton qui, sur un plateau, avait dit « Vous rendez compte le nombre de personnes qu'il faut embaucher pour faire tourner un yacht ?» Ça fait vivre l'économie, un yacht. Tu dois avoir une dizaine de personnes qui bossent sur le yacht. C'est vrai que ça tient à bout de bras l'économie, hein. Faut le reconnaître. Ah mais attends, faut le nettoyer, faut l'entretenir, faut le préparer. Du coup, il en faut plus. Ah bah putain. À coup de 10 personnes par yacht, il va en falloir des yachts, hein, pour filer du boulot à tout le monde. Un yacht par smicard. Surtout que je doute que les yachts soient immatriculés en France. Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Non, je suis curieux, par exemple, il y a un sujet de débat que je trouve intéressant, c'est la question de la taxation universelle. Alors, comment il s'appelle? François Bayrou a évacué cette hypothèse en disant que c'était infaisable en droit juridiquement parce qu'il allait falloir renégocier une centaine d'accords bilatéraux qu'on a avec des pays étrangers, peut-être. Mais n'empêche que la question reste intéressante à poser. Ceux qui ne connaissent pas l'impôt universel, c'est ce qui existe aux États-Unis, par exemple. Ou quand vous êtes américain, vous payez des impôts aux États-Unis. Où que vous soyez à la surface de la planète. Vous ne payez pas tous les impôts, mais il y a des impôts que vous payez, même si vous habitez ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez la nationalité. Vous êtes taxé partout. Si la France mettait en place une imposition universelle, est-ce qu'il y a des riches qui seraient prêts à abandonner leur nationalité française pour aller s'installer à l'étranger et plus jamais revenir? Pour être précis, il paye la différence uniquement si la personne paye moins d'impôts là où elle est qu'elle n'en paierait aux États-Unis, elle paye la différence aux États-Unis. Ouais. Oui, effectivement, c'est des mécanismes fiscaux qui sont faits de manière assez intelligente. Hein. Ce n'est pas une taxation flat pour tout le monde de la même manière dans tous les pays et tout. C'est un peu plus malin que ça. Mais n'empêche. Tout dépend de si les autres pays adopteraient aussi l'imposition universelle de leur côté. Oui, bien sûr, mais c'est, alors ça c'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle la concurrence fiscale, c'est vieux comme les relations internationales, évidemment. Mais non, mais ce serait intéressant de voir les patriotes en carton qui quitteraient la France parce qu'il y a trop d'impôts et qui renonceraient à leur nationalité française, qui iraient se réfugier dans des paradis fiscaux. Et qui n'auraient plus le droit de foutre les pieds à Paris. Ils auraient besoin de demander un visa pour venir en France. Non, Bon, c'est un débat qu'on aura peut-être un jour si la gauche arrive au pouvoir. On n'y est pas. Et puis alors, on y est de moins en moins en plus. Hein. Vu l'ambiance à la fête de l'UMA cette année, on verra. Spoil pas. Non, non, je spoil pas, mais. Mais disons que vous aurez l'embarras du choix en termes de vote. Vous risquez d'avoir l'embarras du choix. L'ambiance était comment? À la fête de l'UMA? C'était le feu. L'ambiance, c'était le feu. C'est juste la gauche qui est divisée, quoi. Comme souvent, c'est pas la première fête de l'UMA où il y a des discussions tendues à gauche, hein. J'ai regardé le débat de l'UMA entre le PS, LFI, Ruffin, etc. C'était tendu du slip. Non, c'était pas tendu. Moi, j'étais dans la foule à ce moment-là. J'écoutais le débat. C'était pas tendu du slip. Enfin, je veux dire, c'était relativement attendu. Le PS et les insoumis qui se mettent sur la tronche, quoi. Oui. T'en penses quoi des manifestations de Londres? Peur que ça arrive en France ou en Europe? Oui, c'est très inquiétant, c'est extrêmement inquiétant des manifestations de rue de l'extrême droite qui, sous couvert d'un argumentaire patriote, mon cul, etc., vient évidemment par xénophobie et par racisme vomir sa haine dans les rues. Plus de 100 000 personnes, c'est beaucoup à Londres. Pour l'instant, en France, on est assez épargné, mais j'ai entendu des appels du côté du RN à ce que ça se développe aussi en France. Donc on verra si en France vont se développer des manifestations d'extrême droite comme ça. Zemmour était sur place. Ouais, j'ai vu que Zemmour était sur place. Il s'est offert un petit kiff de communication. Ils se mettent sur la tronche, mais ont annoncé qu'ils feront alliance au second tour contre le RN. Mais à quelle élection? Non, il n'y a pas d'alliance à gauche au second tour. En vrai, on a été précurseur il y a quelques années avec la manif pour tous. La manif pour tous, je vous rappelle que ça a surpris tout le monde à l'époque par son ampleur. Même la droite était surprise de la quantité de manifestants qu'il y avait dans les rues au moment de la manif pour tous. On a dépassé le million de manifestants. Ne surtout pas faire l'erreur de croire que seule la gauche est capable de mobiliser dans la rue. La gauche le fait plus souvent quand même. Ouais, la gauche le fait plus souvent, mais quand la droite le fait, en général, ça rigole pas, hein. Les manifestations pour l'école libre dans les années 80, c'était massif. Tiens, à propos de manif, qu'est-ce que vous en avez pensé au Népal du Parlement qui crame? Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, trop cool, un Parlement qui crame, c'est hypant, c'est trop de la balle, ça fait plaisir, c'est beau. D'accord. Il y en a plein qui sont hypés. D'accord, ok. Alors, pour le coup, je connais pas le Népal. Je connais pas très bien le Népal, son histoire politique, ses références, son imaginaire, etc. En Europe, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, en Europe, un parlement qui crame, c'est un kiff d'extrême droite. C'est un truc de nazi. Enfin, je préfère vous le dire. Hein. Faites gaffe, je m'en voudrais de vous laisser tendre le bras avec la paume vers le bas sans vous prévenir que. Vous êtes en train de faire un truc qui fait appel à des imaginaires. Attaquer un parlement, c'est un vieux truc d'extrême droite en Europe. L'incendie du Reichstag, évidemment, dans les années 20 ou 30. L'assaut contre le parlement, contre l'Assemblée nationale en 34, en février 34. Je vous rappelle que les fachos ont essayé de prendre l'Assemblée nationale, physiquement. Qu'ils ont été empêchés par la police, heureusement, mais c'est pas passé loin. Le Capitole, le 6 janvier aux États-Unis, effectivement. Alors le Capitole n'a pas brûlé, mais il a été envahi par des manifestations d'extrême droite. Donc la Révolution française en s'attaquant au lieu de pouvoir égale facho. Non, c'est justement la gauche qui a créé les parlements. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en Europe, si on a des parlements, c'est parce que la gauche s'est battue pour ça. C'est littéralement une œuvre de gauche. C'est un acquis. Mais je veux pas vous empêcher de fantasmer sur le fait de faire brûler un parlement, hein. Si c'est votre truc. Outre l'empirisme, qu'est-ce qui justifie cette proximité entre l'extrême droite et la prise d'assaut des parlements? Mais parce que le parlement, ça symbolise tout ce que l'extrême droite déteste. L'extrême droite vomit le parlementarisme. Ils se sont battus pendant des siècles en France contre le parlementarisme, l'extrême droite. C'était eux les bonapartistes au XIXe siècle. C'était eux qui voulaient empêcher le Parlement d'avoir du pouvoir, de pouvoir s'opposer, de pouvoir proposer, pouvoir faire des lois, etc. Ça a toujours été l'archétype de ce que l'extrême droite déteste, la souveraineté populaire, via l'expression des élections. Plutôt crevé. L'extrême droite déteste la République en général. Oui, historiquement, la République, c'est une fabrication, c'est un héritage de la gauche en France. Des républicains, du camp républicain, il n'y avait pas que des gens de gauche, mais il y en a quand même beaucoup dont c'est l'héritage aujourd'hui. L'extrême droite, pendant tout le XIXe siècle, ne rêvait que d'une chose, c'était d'abolir la République. de restaurer un roi sur le trône, d'arrêter toutes ces histoires gauchistes de liberté, d'égalité, de fraternité, de déclaration des droits, mon cul, etc. Certainement pas. On remet un roi sur le trône, on remet de l'ordre dans la rue, on remet de l'ordre dans la société. L'extrême droite, ce qu'elle aime, c'est une société ordonnée, pas seulement l'ordre dans la rue contre les manifestants, etc., mais une société d'ordre, avec des riches et des pauvres, avec des patrons, des salariés, avec, avec des héritiers et tout machin. C'est ce à quoi fantasme l'extrême droite. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait Mussolini et Hitler sur les systèmes parlementaires. Évidemment, mais Vichy. Je vais essayer de retrouver une photo. Merde, je retrouve pas. C'est une de mes photos préférées de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon, que vous connaissez, hein, parce que vous suivez avec moi les questions au gouvernement, machin. C'est une photo qui a été prise pendant la guerre, pendant l'occupation, où les Allemands se sont servis de l'hémicycle du Palais Bourbon, non pas pour faire un débat parlementaire, pas trop le genre, justement. Ils en ont profité pour, vu qu'il y avait de la place, ils ont rassemblé tous les gradés de l'armée, de la Wehrmacht, des SS et des occupants de l'occupation, qui ont pris place dans les travées de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon. Et ils ont posé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, ils ont posé un buste d'Adolf Hitler. Et sur le pupitre en bas, ils ont posé un poste de radio. Et ils ont diffusé en direct un discours prononcé par Hitler au Bundestag, en Allemagne. Ils se sont servis du Palais Bourbon comme d'un théâtre, pour rassembler les gradés et leur dire, bah, on va écouter ensemble le discours, etc. Et cette photo, je la trouve extraordinaire. Ils avaient mis des grandes tentures nazies avec la croix gammée, etc. Je la trouve extraordinaire parce qu'elle elle symbolise tout ce que les nazis pensaient du parlementarisme. C'était la plus belle insulte qu'on puisse faire à ce lieu qui est le Palais Bourbon, qui est l'hémicycle de l'Assemblée nationale, lieu de débat, lieu de vie démocratique, lieu de prise de parole, de prise de bec, etc. Ils en ont fait un truc passif où des militaires, que personne n'a élus, viennent simplement écouter un dictateur parler. Et c'est tout, et applaudir. Alors, j'arrive pas à retrouver la photo. Il y a une photo qui a été prise de l'Assemblée nationale, comme ça, où tu les vois, ils sont tous assis sagement, comme ça, avec un buste d'Hitler et un poste de radio, en train d'écouter un discours. Vous l'avez trouvée où, la photo? Moi, j'arrive pas à la retrouver. Photo du Palais Bourbon sous l'occupation. Ouais, je l'ai. C'est cette photo-là. C'est cette photo-là où on voit le buste d'Adolf Hitler qui est sur le bureau, sur le perchoir du président de l'Assemblée nationale, le poste de radio qui est posé là, sur le pupitre, et tous les gradés, tous les militaires qui sont bien assis calmement en train d'écouter. Cette photo, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est l'extrême droite. C'est ce que fantasme l'extrême droite comme place du Parlement, comme rôle du Parlement, comme vision de la démocratie, comme je sais pas. Au moins, il y a de l'ordre. Ah bah, c'est sûr, il y a de l'ordre. Ah bah, c'est bien rangé. Ça, c'est une démocratie qui se tient sage. C'est fou, quand même, hein. Ce temple de la démocratie, qui est le Palais Bourbon, occupé par des nazis. Ben voilà. Donc ouais, non, je suis content d'avoir retrouvé cette photo et de vous l'avoir montrée. Merci pour vos indications. Pourquoi, à part LFI, les autres partis de gauche ne veulent pas de la 6ème République? Ils veulent tous de la 6ème République, c'est dans le programme de tout le monde. Backseat jeudi. Ouais, ce jeudi, il y a Backseat. Ce jeudi, on fait Backseat. On retourne en studio, évidemment, on ne sera plus à la fête de l'humour. C'est triste, c'est triste, c'est très très triste. Mais on fait Backseat. Je vous tiendrai au courant des chroniqueurs et des invités. C'est encore en train d'être calé. On est sur le coup. Et tu le dis que maintenant. Ouais, je suis désolé, c'était le temps d'atterrir, de revenir de la fête de l'humain. Mais maintenant c'est bon, on est bien revenu. Question bête, mais ça ne changerait absolument rien qu'il y ait une 6ème République si. Bah si. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? S'il y a plus la 5ème République, mais qu'il y en a une 6ème. Après, il faut discuter de ce qu'on met dans la 6ème. Ça, c'est encore ouvert à discussion. Mais évidemment que ça va changer des choses. Sinon, effectivement, ça sert à rien de changer de République, c'est pour garder la même. Backseat, ça sera toujours en partenariat avec la chaîne Twitch de l'Humanité maintenant? Ah non, 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 ça c'est uniquement pour la fête de l'humain. Notre partenariat avec l'Humanité n'a lieu qu'à la fête de l'humain. Bah, ça a du sens, c'est cohérent. Mais par contre, ça c'est vrai que c'est intéressant comme discussion sur qu'est-ce qu'on attend d'une 6ème République. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'emballent un peu sur la 6ème République en se disant ça va être le grand soir, on va avoir une 6ème République et il n'y aura plus jamais de politique de droite dans notre pays. Plus jamais. Ce sera interdit. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. 6ème République, c'est enfin, une République, c'est un ensemble institutionnel avec des rapports de pouvoir, avec des gens qui ont le pouvoir, avec des méthodologies pour avoir le pouvoir. Notamment des élections. Quand on prévoit une 6ème République, je vous incite à garder en tête la possibilité que vous puissiez perdre les élections. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et croyez-le pas, mais c'est des choses qui arriveront. C'est d'ailleurs la beauté de la réflexion et du travail constituant, qui consiste à s'interroger sur les conditions dans lesquelles on sera quand on sera au pouvoir soi-même. Mais aussi quand on sera dans l'opposition. Ben oui, parce que ça va arriver aussi. Donc faut penser à ça. Faut penser aux moyens de l'opposition, faut penser aux moyens des groupes minoritaires à l'Assemblée, faut penser à pas mal de choses. Une république sans que les désaccords s'expriment, c'est juste un autoritarisme. Exactement. Exactement. Oui, parce qu'il y en a aussi qui parlent de 6ème république, mais qui oublient le mot république. Enfin, c'est dommage quand même. C'est con, parce que ça s'appelle comme ça, donc ce serait bien que ça reste une république. Sinon, c'est un régime autoritaire, effectivement, un régime autoritaire avec un parti unique, qui est le seul à avoir raison. Les écoliers apprennent des chansons à la gloire du leader, etc. C'est un délire, hein. Il y en a qui l'ont fait dans l'histoire, mais... Si on estime que le racisme est interdit, c'est autoritaire, par exemple. Ah non, il est déjà interdit, le racisme. La preuve, ça n'empêche pas les gens de l'être, le fait que ce soit interdit. Est-ce qu'on pourrait faire une république avec un barrage sanitaire comme les médias en Belgique? Tout le monde peut s'exprimer dans la politique, mais pas pour promouvoir des idées illégales. C'est pas franchement en changeant de république que tu changes ça, hein. Ça peut passer par des lois, par des investissements publics. Sénat citoyen tiré au sort. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de la représentation des collectivités territoriales alors? On va pas départir les élus locaux de leur représentation. Sinon, on n'est plus une république décentralisée. Je débarque seulement, mais j'étais à la fête de l'UMA ce week-end et Backseat en direct, c'était top, merci beaucoup. Merci à toi, merci. C'est bien beau de changer le mode de fonctionnement institutionnel, mais comment guérir la classe politique de la drogue qui est devenue le fait d'avoir une majorité absolue à quasi tous les coups, et du coup d'attendre la présidentielle comme une solution magique? Mais je suis bien d'accord avec toi. C'est pas parce que tu changes de république, que tu changes de système politique, que tu changes des habitudes politiques, des formations politiques, des organisations politiques, des partis politiques, des syndicats. C'est plus subtil que ça. Après, tu peux faire une république qui incite à une culture politique. Ouais, pour l'instant, de ce que j'entends de la bouche de ceux qui promeuvent une 6ème république, on se dirigerait vers un système parlementariste. Avec une élection au scrutin proportionnel. Moi, je veux bien, hein. Mais à ce moment-là, ça va falloir de la culture du compromis. Je crois qu'il y en a deux, trois dans le chat à qui ça va pas plaire. Et les combines des partis. Et les combines des partis. C'est exactement ce contre quoi s'est battu De Gaulle en 58 en créant la 5e. Mais si c'est ce qu'on veut, si c'est ce qu'on veut, moi, ok. Donc je vous invite à lire tous les articles de journaux qui sortent sur Sébastien Lecornu qui négocie avec les républicains et les socialistes. C'est ça une république parlementariste. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais... Il peut y avoir négociation avant les élections. Là, on est dans un cas très particulier. On n'est pas dans un cas particulier, hein. On est dans ce que les Allemands et les Belges connaissent très bien. C'est après les élections que les négociations ont lieu, dès lors qu'il faut trouver des compromis, élargir les majorités, etc. Enfin, trouver des majorités déjà. Même s'il faut adopter, mais fondamentalement, les républiques les plus stables et sereines au monde sont lesquelles à titre d'inspiration? En fait, moi, je suis toujours très gêné par... Je suis juriste comparatiste, en l'occurrence, j'ai fait du droit comparé, du droit constitutionnel comparé. Je suis toujours assez emmerdé dans l'exercice qui consiste à comparer les républiques les unes par rapport aux autres, en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs et que dans les autres pays, ça va mieux. Comme si, par exemple, la stabilité était en soi quelque chose de souhaitable. Moi, j'aimerais bien qu'on interroge ça. Est-ce que la stabilité, c'est en soi souhaitable? Est-ce qu'on ne peut pas souhaiter une démocratie vivante, où il y a des changements, où il y a des évolutions, où il y a des alternances? Je considère pas que l'alternance soit quelque chose de néfaste, par exemple. On peut changer de parti politique, je veux dire, le peuple peut changer d'avis, hein, le peuple peut évoluer, le peuple peut bouger, le peuple peut se mobiliser, le peuple peut ne plus aimer un parti pour lequel il a voté par le passé. Ça... Après, je sais pas, moi, on peut voir des pays dans lesquels il n'y a que deux partis, par exemple. C'est vachement bien, le bipartisme. Tenez, prenez les États-Unis. Parti démocrate, parti républicain. Génial. Bon, bah, je suis désolé, moi, c'est pas ma culture. Je ne suis pas américain, j'ai pas grandi aux États-Unis. Et j'ai une culture politique qui est européenne, qui est française. On est plutôt dans un multipartisme assez intéressant, où il y a quand même pas mal de choix. Quand même pas mal de gens assez différents, bah moi je suis plus habitué à évoluer là-dedans. Et à choisir, je préfère. Par ailleurs, je suis pas si vieux, mais je me souviens de l'époque de l'UMP et du PS, qui étaient tous les deux hégémoniques. C'était pas marrant, hein. Enfin, en tout cas, ça satisfaisait pas tout le monde, hein. Donc c'est intéressant comme discussion parce que ça nous amène à nous interroger sur c'est quoi les critères de succès d'un système politique. Sur quoi on juge qu'on a un bon ou un mauvais système politique? On peut juger par exemple, t'as un critère, c'est l'efficacité économique. Alors voilà, tu peux te ranger à cette idée-là en se disant qu'un pays fonctionne bien dès lors qu'il a un bon taux de croissance, des bons investissements, une bonne vitalité économique. Ouais, si on veut. Bon. Pareil, ça va. Moi, ça va pas me parler. Il y a d'autres à qui ça va parler. Moi, c'est pas mon cas. Un bon système économique, c'est un système économique qui garantit un faible niveau d'imposition. Ah, ouais. Pareil, moi, c'est pas mon truc, mais ce n'est que mon opinion. Ça peut être l'opinion de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire que le bipartisme politique renforce les extrêmes ou du moins ceux qui ne sont pas compris dans ce cadre politique très limité? Bah, la preuve que non, c'est-à-dire que les extrêmes, je ne sais pas ce que tu entends par les extrêmes, mais ils n'ont jamais été aussi puissants que depuis qu'on n'est plus dans le bipartisme. Donc d'un certain point de vue, on peut même plutôt dire que le bipartisme était un bon rempart contre les extrêmes. C'est vrai que ça a bien marché aux US. Non, non, TKL, je parlais de la France. Oui, t'as raison. Effectivement, aux US, Donald Trump a réussi à faire basculer à l'extrême droite le Parti républicain. Quand même, mais quelle histoire ça, putain. Donald Trump qui a réussi à faire dire au Parti républicain l'inverse de ce qu'il a dit pendant des années. Les tarifs douaniers, le Parti républicain s'est battu contre les tarifs douaniers pendant des décennies. Mais c'était d'une virulence incroyable. Les caciques, les ténors du Parti républicain américain, quand on faisait des caisses pour faire abaisser les tarifs douaniers partout dans le monde, etc., le libre-échange à tout prix, machin. Et Donald Trump, en 5 ans, il retourne le parti. Et maintenant, tout le monde le suce. Enfin, tout le monde l'applaudit. Parce qu'il met en place des tarifs douaniers, quoi. Et pas n'importe lesquels, en plus. Retailleau sera peut-être bientôt pro-immigration. M'étonnerait. Les tarifs douaniers, c'est de gauche. Bah, historiquement, oui. Et voilà, le protectionnisme a souvent été une politique prônée par la gauche. Ça l'est encore aujourd'hui, hein, Jean-Luc Mélenchon prône le protectionnisme. Je sais pas. La différence entre patriotisme économique et protectionnisme, j'en ai rien à foutre des mots. J'en ai rien à foutre. À partir du moment où tu mets des tarifs douaniers, c'est du protectionnisme. Tu protèges ton économie contre les investissements et le dumping à l'étranger en mettant des tarifs à la frontière. Tu peux faire du protectionnisme écologique, tu peux faire du protectionnisme social, tu peux faire du protectionnisme patriotique, tu peux faire du protectionnisme de plein de manières. Ça reste du protectionnisme. Quand je dis que le bipartisme renforce les extrêmes, je veux dire que des voix qui ne se sont pas comprises dans ce cadre bipartite commencent à s'exprimer en marge de celui-ci. Par exemple, la France après la domination du PS et de l'UMP. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est que ça vient en réaction au bipartisme qui ne plaisait à personne. C'est ce qu'on analysait déjà tout à l'heure sur le fait que notre système politique en France promeut au niveau national, via les élections présidentielles, des partis politiques, disons, incarnés par une personne forte, un leader charismatique, comme on dit, avec assez peu de démocratie en interne, qui fait des bons scores aux élections, présidentielles, qui ne sont pas du tout issus des deux partis traditionnels du bipartisme français, le PS et les Républicains, qui eux s'effondrent aux élections présidentielles. Donc le PS et LR font des mauvais scores à la présidentielle. Et laisse la place à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui caracolent en tête et qui ne sont pas du tout issus du bipartisme, qui au contraire d'ailleurs font la promotion d'une offre différenciante vis-à-vis des vieux partis. Après, en France, le bipartisme a aussi fait naître Macron en soi. Bah, moi, je veux bien, mais Macron, il est né en réaction au bipartisme. Alors, moi, je veux bien que vous considériez que le bipartisme est à l'origine de tout. Mais Macron, sa naissance politique, elle est liée à un rejet. Et elle a été soutenue par un mouvement électoral de rejet du bipartisme. En tout cas, des partis traditionnels. Bayrou avait déjà ouvert la voie. Bayrou a été l'architecte de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Il l'a rendu possible en retirant sa candidature, par ailleurs. Est-ce que le RN ou LFI sont condamnés à remporter aucun second tour présidentiel? Ça, j'en sais rien. Ça, franchement, je vais pas faire de pronostic. Est-ce que en cas de second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon bénéficiera d'un front républicain? J'en suis pas persuadé. On verra ce que feront les électeurs, mais. Je pense que c'est mort pour Mélenchon. En tout cas, si on regarde les sondages, oui, c'est mort. Mais c'est pas dit que ce soit ce scénario-là qui se réalise, hein, que Jean-Luc Mélenchon se retrouve au second tour face à Marine Le Pen. Déjà, c'est pas sûr que Marine Le Pen sera candidate. Il y a même assez peu de chances. Ça peut être Bardella en face, ça peut être Gabriel Attal. Est-ce qu'un nouveau parti pourrait émerger? Oui, un nouveau parti pourrait émerger. Ça, c'est pareil. C'est une erreur qu'on commet tous, mais moi le premier, hein, c'est de penser les dynamiques politiques en fonction de ce qu'on a déjà. En disant que c'est un peu ancré dans le marbre, que c'est un peu gravé dans le marbre, qu'on connaît l'état des forces, etc. Pas du tout. On peut avoir des surprises. On peut avoir des. Surtout à l'élection présidentielle, où on a vu des fusées. On a vu des Emmanuel Macron qui n'avait aucun parti politique un an et demi plus tôt et qui se retrouve à remporter une élection. On a vu des candidatures qui étaient données assez haut dans les sondages et qui se sont pété la gueule parce qu'ils ont fait une mauvaise campagne. Je pense à Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a fait 7%, ce qui n'est pas énorme. Mais ce qui n'est pas non plus négligeable, vu le score qui ont été réalisés par d'autres. Là, il y a Dominique de Villepin. Dominique de Villepin pourrait créer la surprise. J'en sais rien. Est-ce que Dominique de Villepin est capable de faire 10%? Mais 10%, c'est déjà énorme. On parle de Patrick Sébastien. Vous voyez, c'est con, mais on avait parlé de Cyril Hanouna aussi par le passé. C'est ce qu'on appelle le scénario du clown. Teddy Riner. Ouais, j'ai vu Teddy Riner. De quelqu'un, donc quelqu'un de complètement et de radicalement opposé, étranger au système politique, qui se présente et qui réalise un score non négligeable, à même de gêner des électorats plus établis, etc. Bon, Zelensky par exemple, très bon exemple, Zelensky. Zelensky a été élu exactement comme ça, contre la corruption, il a fait campagne que sur Facebook, il n'est pas passé à la télé, etc. machin. Bon, bah, il est devenu président de la République, le mec. Donc, je vous parle même pas forcément, je vous parle même pas de quelqu'un qui devient président de la République. Je vous parle de quelqu'un qui fait un score. Et faire un score, ça veut déjà dire soi-même avoir un score important, non négligeable, mais ça veut aussi dire gêner les autres candidats. Voire potentiellement changer les équilibres. Et ça, c'est possible. Alexandre Jardin, ouais, voilà, Alexandre Jardin. Non, mais peu importe, en fait. Peu importe qui c'est, mais... Peut-être que l'élection va être perturbée par une candidature de ce style-là. J'en sais rien. Un score pour toi, c'est genre 5%? Ouais, 5%, c'est une bonne barrière. 5%, c'est une bonne barrière psychologique de se dire que si tu réussis à faire 5%, tu représentes quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu es incontournable, tu n'es pas forcément faiseur de roi, mais tu as gêné. Tu as gêné des gens qui les auraient bien pris, ces 5%. Et tu es remboursé de tes frais de campagne en plus. Remboursé par qui? Par l'État. 5% des électeurs, c'est combien de personnes en 2022? Bah, je te laisse faire le calcul, il y a 39 millions d'électeurs. Ça, c'est 39? Ou c'est 49? Je sais plus. C'est 49. Non, non, c'est 49. C'est 49 millions de Français inscrits sur les listes électorales et 37 millions de suffrages exprimés. Merci les copains. 49 inscrits, 37 votants. Faut que je retienne. Sachant que les partis traditionnels ont fait en dessous de 5%, est-ce que ça pourrait faire la même pour Renaissance? Oui. D'autant que je rajoute quand même un truc qui est important quand on parle de Renaissance, c'est que c'est un parti présidentiel. C'est un parti qui n'existe que par et pour Emmanuel Macron. No offense, Gabriel Attal, très talentueux au demeurant, je ne suis pas persuadé qu'il soit en mesure de faire un score faramineux. Ce que votent les gens quand ils votent Renaissance, c'est Macron. Si Macron n'est plus là, parce que Macron, je vous le rappelle, n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle, bah il est possible qu'il y ait un paquet d'électeurs qui votent autre chose. Ils vont revoter PS LR comme avant. C'est possible! C'est possible, ça représente du monde en plus, je vous rappelle, hein, quand même. J'ai vu tout à l'heure dans l'interview sur BFM TV de François Hollande que François Hollande comptait bien sur la récupération par le PS d'une bonne partie des électeurs macronistes. Tablant sur le fait que des électeurs macronistes seraient mécontents du virage à droite du quinquennat d'Emmanuel Macron, de son entêtement à maintenir le cornu, et que donc c'était le PS qui avait vocation, à l'occasion de l'élection présidentielle, en présentant une candidature autonome, ça c'est ce que souhaite François Hollande, de récolter la mise et de se retrouver au second tour. On verra. On verra si les calculs de François Hollande se réalisent. Pour les plus jeunes, de Villepin, c'est quoi son histoire et son bord politique historique? De Villepin, c'est un Chiracien. Donc, il représente la droite, disons la droite sociale, même si ce n'est pas tout à fait la bonne manière de l'appeler. C'est une droite qui a disparu en 2002, en 2007, pardon, et qui a laissé place à l'UMP de Nicolas Sarkozy, qui était beaucoup plus sur des thématiques d'insécurité, d'immigration et de libéralisme économique. Disons que De Villepin, c'est un centre-droit. On va le présenter comme ça. J'appelle ça la droite raisonnée, moi. Oui, si tu veux, je m'en fous. Je suis pas à cheval sur les appellations, je m'en branle un peu. Mais donc, c'est une droite qui est sur les questions internationales très anti-atlantiste, très autonomiste et vraiment gaulliste à l'ancienne sur l'indépendance et l'autonomie de la voix de la France, etc. Sur les questions économiques, c'est plutôt des libéraux, mais ils sont quand même. Enfin, ils prennent soin du dialogue social et de trouver des deals avec les syndicats et pensent que c'est important. Enfin, on ne gouverne pas contre les gens, quoi. Et sur les questions de morale, ils sont très républicains, ils sont antiracistes, ils sont contre l'antisémitisme. Voilà. Pas du tout le RN ou Retailleau. Pas du tout le RN ou Retailleau. Alors vraiment pas. Retailleau déteste Dominique de Villepin et c'est réciproque. Bref, rien qui est à la mode en ce moment, donc sûr de perdre. Eh, mais on ne fait pas de la politique pour être à la mode, hein. Ça peut changer. Ce ne sera pas la première fois qu'on voit des gens partir de rien et réussir à quelque chose, hein. Moi, je ne sais pas si vous étiez sur ma chaîne à l'époque, parce que ça fait 10 ans que je suis sur Twitch. J'ai streamé le meeting de lancement du parti La République En Marche. Meeting de lancement, hein. Création du parti. J'étais là, j'ai streamé et tout, on commentait ensemble et tout, puis moi je disais, ça marchera jamais. Espèce de soupe libérale là, machin, ouais, truc centriste, européen. Non mais les Français, c'est pas leur truc. J'étais dubitatif. C'est la petite entreprise personnelle d'un ministre, d'un ancien ministre, qui est en plus pas le plus connu. Genre Mélenchon ou Macron, personne ne les voyait aller nulle part à la base. Mélenchon, pareil, Mélenchon. Mélenchon qui se barre du PS en 2008 en disant c'est que je me casse, je vais créer mon parti de mon côté, le parti de gauche. Tout le monde s'en branlait à l'époque. Hein. Il y avait très très peu d'articles de journaux qui parlaient de ça. Même les journalistes faisaient pas d'articles sur Mélenchon qui crée son écurie, là, son truc. C'est le mec renfrogné du traité constitutionnel en 2005, là, c'est ça? Il est parti créer son club? Très bien. Voilà. Mélenchon, ça a mis du temps. Ah oui, ça a mis du temps. Bah, il a bénéficié du boost du quinquennat de François Hollande qui a déçu beaucoup d'électeurs de gauche. il y a deux règles ici. Les pronos sont pas bons et il se passe des dingueries quand Jean part en vacances. C'est un peu les deux règles de la chaîne. C'est un peu les deux règles de la chaîne, c'est vrai. Les pronos sont pas bons et il se passe des dingueries quand Jean part en vacances. Est-ce que LFI peut exister sans Mélenchon ? Ah, c'est peut-être une question que le parti va devoir se poser prochainement. La France Insoumise, c'est un parti qui a été créé autour de son incarnation très puissante de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on appelle un leader charismatique, une personne qui embarque derrière elle, derrière sa candidature notamment à une élection unipersonnelle, un large électorat. Pour l'instant, LFI, ça reste un parti d'élection présidentielle. Est-ce qu'ils vont réussir l'année prochaine à s'ancrer localement ? Peut-être dans certains quartiers populaires. Ils vont arracher des mairies, c'est possible. Est-ce que pour autant ils auront un ancrage local important ? C'est pas sûr. Est-ce que le parti peut survivre à Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je pense que oui, compte tenu du fait qu'il est bien imprimé dans le paysage maintenant, le parti de la France Insoumise. S'ils réussissent la transition, ils peuvent réussir à rester durablement. Il y a tellement de bons éléments à la FI que je répondrais oui. Ouais. Après, attention, le PCF aussi. Hein. PCF, ils sont en perte de vitesse de manière assez impressionnante depuis plusieurs années maintenant. En tout cas, aux élections présidentielles, aux élections municipales et départementales, ils se défendent encore dans des accords et des alliances. Et encore pas partout. Mais bon, ils se sont fait marginaliser au niveau national, quoi. Le NPA aussi, il y a des gens intéressants. Ouais, le NPA aussi, il y a des gens intéressants. Ils n'ont jamais gagné une élection. Pas facile. Donc, à voir. Pour vous répondre, je suis curieux. Moi, j'y crois pas pour LFI, c'est un parti à la soviétique avec un culte de la personnalité. Ouais, tu y vas un peu fort, mais... Non, c'est la question de... Est-ce que sans Jean-Luc Mélenchon, les électeurs se détourneront de la France Insoumise et voteront pour autre chose, un autre leader charismatique d'un autre parti politique, etc. J'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que ça me fait me questionner sur ce que je vous disais tout à l'heure sur Renaissance. Est-ce que les macronistes peuvent survivre à Emmanuel Macron ? Vu qu'il n'y aura pas de bulletin Emmanuel Macron en 2027, quel va être le comportement électoral des macronistes ? Des électeurs macronistes ? Est-ce qu'ils vont voter pour le candidat du parti Renaissance adoubé par Macron ou pas ? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont décider d'aller ailleurs ? Je sais pas. Est-ce que les différentes tendances au sein de la France insoumise pourront continuer à cohabiter après Méluche ? L'un des avantages de la France insoumise, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Enfin, il n'y en a qu'une, c'est celle de la direction du parti. Les tendances, elles se font à l'extérieur du parti, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu n'as pas compris, on t'indique la sortie. Est-ce que sans Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise éclaterait en plusieurs tendances ? Je pense pas non plus. Les électeurs RN voteront pour Bardella. Attends. Les électeurs RN voteront plus Bardella que les électeurs FI voteront pour un autre que Méluche, ça c'est certain. Mais j'en sais rien, ça dépend de qui c'est l'autre que Méluche. Ça dépend de qui, ça dépend de comment ça se fait, ça dépend de la dynamique et du contexte politique. En revanche, c'est vrai que je nous invite à ne pas faire l'erreur de croire qu'il existe des mouvements politiques immuables. Je pense que ce que l'histoire politique de ce pays nous a appris ces 10 dernières années, c'est qu'on peut être surpris. Des partis hégémoniques peuvent faire 2% et des partis inconnus peuvent remporter une élection. C'est possible. Je dis pas que c'est systématique, je dis pas que c'est mécanique, mais en tout cas, ça a été possible. Le problème de la FI, c'est que c'est bien beau d'avoir Méluche président, mais ils font quoi sans AN et sans Sénat? Alors sans Sénat, c'est pas un problème. Le fait de ne pas avoir le Sénat avec soi ne vous empêche pas de gouverner. C'est mieux de l'avoir, mais si on l'a pas, c'est pas grave. Sans AN, par contre, tu as raison. Je suis d'accord avec toi, et je nous invite encore une fois à faire gaffe. C'est pas parce que vous gagnez la présidentielle que vous gagnez les législatives dans la foulée. C'est pas automatique. Vous pouvez vous prendre une tôle aux législatives. C'est en partie ce qui s'est passé en 2022. En partie. C'est quand même souvent le cas. Oui, mais pas ces derniers temps. Ces derniers temps, on a plutôt vu l'inverse. On peut avoir un Méluche président à 50,1% et une législative contre lui. Ouais, c'est complètement possible. Vous imaginez Méluche président qui est obligé de négocier avec le Parti socialiste pour faire une majorité? Pardon. En vrai, ce serait drôle. On verra, on verra, on verra, on peut être surpris. Pareillement pour le RN. Oui, le RN. Marine Le Pen peut être élue présidente de la République et perdre les élections législatives dans la foulée. S'il y a un fort Front républicain, union de la gauche, etc., machin, on peut imaginer plein de choses. Si Marine Le Pen, je voudrais pas m'engager pour la gauche. Je vous embrasse la gauche, mais si Marine Le Pen est élue présidente de la République de ce pays, j'ose espérer que vous allez vous allier les uns les autres pour nous présenter des candidatures uniques antifascistes dans toutes les circonscriptions du pays. On réglera ça à la fête de l'Huma. Voilà, on s'engueulera à la fête de l'Huma après. On discutera le programme, le machin, les alliances, tu négocies, t'es un traître et tout. On verra ça après. Mais sur le moment, ces manifestations monstres, on sauve le pays, etc. Donc la gauche gagnera les élections législatives et on se retrouvera avec un gouvernement de gauche pluriel. Marine Le Pen qui se retrouve en cohabitation dès le mois de juin. Pourquoi manifester contre le résultat d'une élection? Pour dire qu'on n'est pas d'accord. T'as d'autres questions? J'ai jamais compris ça. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème à manifester pour dire qu'on est dégoûté du résultat d'une... Enfin, on a le droit de ne pas être content du résultat d'une élection? Si on a le droit de le dire. Enfin, allez-y, hein. Vous, par exemple, le soir au dîner à 20h, le dimanche, quand vous êtes en famille et qu'il y a le résultat de l'élection qui tombe, vous dites quelque chose. Je veux dire, vous exprimez un truc, vous restez pas silencieux en disant ah, non, le peuple a voté, moi je dis rien. Bah, si, bien sûr que si, tu dis quelque chose. On opine. On opine. Tiens, bah, c'est comme ça. Bah, les Français, ils ont décidé. Je les emmerde, les Français, je suis pas d'accord avec eux. En plus, c'est faux ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas en train de dîner le soir des élections parce que vous êtes sur ma chaîne Twitch. Vous n'êtes pas en train de dîner devant la téloche. Vous êtes sur ma chaîne Twitch en train de profiter de... En train de renouveler votre abonnement, d'ailleurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci les copains. Merci pour votre soutien. On dîne devant Jean Massier. Ouais, vous avez le droit de dîner devant mon stream. Je crois que beaucoup confondent et pensent que manifester, c'est essayer de montrer que l'opposition est majoritaire. Je pense que toutes les manifs, c'est 95. Non, je pense qu'il y a beaucoup de manifestants qui ont parfaitement conscience qu'ils sont minoritaires. Alors on essaye de se bercer un peu d'illusions de temps en temps en se disant ouais, on est majoritaire, on est un très grand nombre et tout. Non, enfin, je veux dire, on se prend tôle sur tôle aux élections, voilà. Bizarrement, ça serait choquant si le RN manifestait contre un président de gauche. Non, pourquoi? La manif pour tous. C'était plus bigarré que ça, la manif pour tous. Hein. D'ailleurs, Marine Le Pen avait du mal à appeler à manifester, à rejoindre le cortège de la manif pour tous à l'époque. C'était une vraie manif de droite au sens large de la droite. Il y avait quand même beaucoup de familles historiques de la droite qui manifestaient, à l'exception des libéraux qui étaient un peu mis en minorité, mais. Vraie manif de droite, les partisans de Gaulle après mai 68. Bien sûr, c'est une manifestation qui a eu lieu en juin 68, je crois, sur les Champs-Élysées. Une manifestation monstre. Il y avait un monde fou en soutien à De Gaulle. C'était la manif de 68 pour De Gaulle. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est De Gaulle qui a gagné les législatives hein, en 68. Largement en plus. Hein. Non, il y avait les manifestations pour l'école libre. C'était en quelle année? C'était la loi de Vaquet, c'est ça? Je me souviens plus. Mais les manifs pour l'école libre, ça, c'était un truc en 84, ouais. Savary, avant De Vaquet. C'était avant Non, De Vaquet, c'était des manifs étudiantes. C'était Fallou, c'était Savary, je me souviens plus. Bon, en tout cas, il y a eu des grosses manifestations contre un projet du gouvernement socialiste, donc de gauche, socialo-communiste, comme on disait à l'époque. Un projet de nationalisation des écoles privées. Nationalisation, c'est pas le bon mot, mais en gros, c'était une reprise en main par l'appareil de l'éducation nationale des écoles privées qui allaient plus pouvoir s'organiser comme elles le voulaient, etc. Et bah, à la surprise des socialistes, il y a eu un énorme mouvement pour l'école libre, donc de parents d'élèves, d'enseignants, pour défendre l'école libre et la possibilité pour les écoles de s'organiser comme elles le veulent, sans devoir rendre des comptes à l'État. Et ça avait été une énorme manifestation qui avait cartonné à l'époque. Et le gouvernement avait reculé. Le gouvernement avait reculé sur son projet. Si vous entendez parler de guerre scolaire, ça fait référence à ça. La guerre scolaire, c'est l'école privée contre l'école publique. Donc voilà. Mais il y avait déjà des gens à l'époque, hein, y avait déjà des gens à l'époque qui étaient contre l'école privée et tout, qui gueulaient contre l'école privée, qui étaient des vrais socialistes, hein, qui voulaient socialiser l'école privée, remettre au pas ces foyers de prêtres en soutane, etc. Et ben, ils ont eu face à eux des manifestations massives. Et ils ont dû reculer. Il y a Philippot qui essaye de faire des manifs à Paris de nos jours. Genre son truc contre l'aide de l'UE à l'Ukraine. Il existe encore Philippot? Je croyais qu'il avait disparu avec le mouvement anti-vax. Ces foyers de prêtres en soutane, bah oui, c'est toujours le cas, rien qu'à Bétharram, les écoles privées sont un élevage de bourgeois réac. Non, mais continue, continue si tu veux à t'en prendre à l'école privée. Tout ce que je te dis, moi, c'est que tu auras des manifestants face à toi. Tout. Croyez pas que quand la gauche gouverne, tout se passe bien. Genre, dans le meilleur des mondes, les perspectives économiques sont bonnes, les déficits reculent, le chômage descend. Le climat ne se réchauffe plus, etc. Je veux dire, c'est l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose de difficile. Tu fais face à des résistances, tu fais face à des manifs. Je veux dire, c'est pas évident. L'école privée, tout le monde sait que c'est un sujet explosif si quelqu'un y touche, un peu comme les retraites. Ouais. Ah bah, il y a des totems, hein. Salut Jean, j'ai vu Baxit à la fête de l'UMA samedi. Quelle rentrée! Baxit là-bas, c'est toujours énergique. Ouais, merci, merci d'être venu. C'était très très cool. On a passé une super émission. C'était hyper intéressant, hyper riche et le public était en feu. C'était trop trop cool. Tu penses quoi du principe du financement public des écoles privées? Je pense qu'on n'a pas le choix. Le secteur public n'a pas du tout les moyens d'accueillir tous les enfants qui sont aujourd'hui scolarisés dans le privé. Et qu'il faut garantir un financement minimum pour une éducation de qualité dès lors qu'il y a un contrat d'association qui est fait et que les programmes scolaires qui s'appliquent sont ceux de l'État. Et par ailleurs, je pense que réouvrir une guerre scolaire ne fait pas partie des priorités d'un gouvernement de gauche qui arriverait au pouvoir demain matin. On a autre chose à foutre que d'aller bousiller l'école privée. Oui, il y a 1 milliard d'autres priorités. Les privés sous contrat ou hors contrat sont pas comparables. Non, c'est pas comparable du tout, en plus ça n'a rien à voir. Vous pensez pas qu'il puisse y avoir de l'abus ou des dérives dans le public? Si, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est du whataboutisme, c'est pas. Enfin, je. Peu importe. Au moins, on arrête de les subventionner. Mais si on arrête de subventionner les écoles privées, elles ferment. Mais non. Mais qu'est-ce que vous faites des gamins? J'adore, il y en a dans le chat qui se réjouissent de la fermeture d'une école. Elle est belle la gauche. parce qu'elle est privée, du coup ça compte pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants si on ferme une école privée? Mais on a ni la place ni les moyens de les accueillir dans le public. Vous me croyez quoi? Vous croyez qu'il y a des places qui attendent des gosses? Vous croyez qu'on peut se permettre de fermer les écoles privées? Enfin, des classes de 55. Ouais, c'est ça. Ah bah, putain. Ça a changé la gauche. Hein. Il y en a vraiment qui planent. Ouais, non, mais c'est l'esprit révolutionnaire, tu vois, ça donne des idées et tout, c'est un peu mignon. Tu lances des slogans, puis tu te dis que ça fait des politiques publiques. On a à peine la place d'accueillir des enfants actuellement scolarisés dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on sait quand le nouveau gouvernement sera nommé? Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite, probablement même pas avant la fin de la semaine. Il a prévu de consulter qui encore? Là, il a consulté la droite en grande partie et je crois qu'il ouvre des discussions avec la gauche à partir de mercredi. Est-ce que tu crois aux négociations entre le RN et Lecornu? Non. Le RN déteste Lecornu et ne veut pas entendre parler de lui. Marine Le Pen l'a répété hier à Bordeaux, en clôture de ses journées d'été. Pourtant, ils ont bouffé ensemble. C'est pas parce qu'ils ont bouffé ensemble qu'ils vont gouverner ensemble. Ça, pareil, faut le retirer de votre esprit. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a énormément de dîners qui se font en politique, notamment entre ceux qui sont au pouvoir et les oppositions, sans que ça donne naissance à des accords programmatiques et à des volontés de travailler ensemble ou de faire des alliances ou des trucs comme ça. Donc, la prochaine fois que vous entendez qu'un politique a dîné avec un autre politique, n'en concluez pas qu'ils sont potes et qu'ils vont bosser ensemble. C'est une prise de température. Ouais, c'est une prise de température. En l'occurrence, Marine Le Pen déteste Sébastien Lecornu. Elle l'a dit et répété dans ses discours. Elle estime que c'est un énième Emmanuel Macron qui ne fera rien en faveur du programme demandé par le Rassemblement national, notamment sur l'immigration, sur la remise en cause de la contribution française au budget de l'Union européenne, etc., etc. Elle a aussi dit que la censure ne serait pas automatique. Oui, ça c'est vrai. Marine Le Pen, et là elle est constante, Marine Le Pen n'a pas changé d'avis ni de point de vue de ce point de vue-là, Marine Le Pen continue à dire que le Rassemblement national ne souhaite pas censurer a priori les premiers ministres. Elle l'avait déjà fait avec Barnier, elle l'avait déjà fait avec Bayrou, et elle compte probablement le refaire avec Sébastien Lecornu. Moi, je ne m'attends pas à ce que Marine Le Pen censure Sébastien Lecornu dès le début. Tous les partis devraient fonctionner comme ça. Ben, non. Enfin, s'il y a des partis qui veulent censurer d'entrée de jeu, ils ont le droit. Enfin, moi, ça me choque pas. Est-ce que tu penses que la stratégie de la stabilité est la bonne en vue de 2027 à gauche comme à droite? Je sais pas ce que c'est la stratégie de la stabilité. Pour ce qui est de Marine Le Pen, elle est constante dans sa stratégie de dédiabolisation. Marine Le Pen veut se présenter comme à la tête d'un parti respectable, responsable, prêt à gouverner. Et beaucoup de choses qu'elle dit et qu'elle fait découlent de ça. Le RN censure si la politique générale ne lui convient pas, elle a dit. Oui, mais c'est à l'exercice en général que le RN décide de censurer ou pas. C'est pas sur un discours de politique générale. Elle n'aura pas le choix de censurer car il y a le budget. Tant qu'il n'y avait pas de budget, ça passait le fait de ne pas censurer. Là, elle ne peut pas laisser passer un budget sans se mettre ses électeurs à dos, donc obligée de censurer. Peut-être, t'as peut-être raison. Je suis curieux quand même sur l'analyse qui consiste à dire que c'est dans l'intérêt, que ses électeurs regardent ça de près et qu'ils lui en voudront si elle ne censure pas. Ça dépend beaucoup de ce que va faire Sébastien Lecornu. Hein. Si Sébastien Lecornu négocie et trouve un deal avec les socialistes, là, Marine Le Pen, elle sera incitée à censurer. Tu penses qu'il y aura un réflexe parti de l'ordre à droite en 2027 face à un discours parfois radical de certains partis de gauche? Oui, mais ça, c'est classique. La droite s'oppose à la gauche s'oppose à la droite dans les discours, dans les postures, dans les votes, dans les expressions. Évidemment que la droite se présente devant les électeurs, devant ses électeurs, comme le parti de l'ordre, par opposition à la gauche qui est pointée du doigt comme le parti du désordre. Voilà. Il n'y aura aucun deal entre Lecornu et les socialistes. Je pense aussi. Mais c'est pour ça que je pense que Lecornu est dans la merde. Hein. Je pense que Lecornu n'a pas de marge de négociation. Tain, ça me paraît extrêmement délicat pour lui, sauf à arracher auprès des socialistes un deal sur une mesure très forte. Ça me paraît difficile. LFI n'a pas parlé d'une motion de destitution. Si, LFI a déposé une motion de destitution à l'Assemblée nationale qui a été signée par une centaine de députés qui n'a aucune chance d'aboutir. C'est d'ailleurs une des limites de la stratégie de la France insoumise en cette rentrée. C'est-à-dire, si tu mises tout sur Macron destitution, qu'est-ce qui se passe si Macron n'est pas destitué ? On verra. Est-ce que tu as des insights pourquoi le camp présidentiel refuse de négocier vraiment avec le PS ? C'est pas qu'il refuse de négocier vraiment avec le PS, c'est juste que le PS demande des victoires trop importantes pour les macronistes, surtout qu'ils remettent en cause le bilan des macronistes. Les macronistes ont travaillé pendant 8 ans à mener une politique, et les socialistes leur demandent de faire demi-tour sur certains points, notamment sur la taxation des hauts revenus, le coût du travail, etc. Donc, la question, c'est Macron. La question, c'est est-ce que Macron est prêt à accepter une cohabitation ou pas ? Enfin, une cohabitation, c'est plus à l'ordre du jour maintenant que c'est Sébastien Lecornu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. La réforme des retraites limite les négociations. Ouais, l'abrogation de la réforme des retraites fait partie du menu des négociations posées par le PS. Est-ce que Lecornu pourrait être poussé à la démission faute d'avoir trouvé une majorité ? C'est une bonne question que tu poses. Parce que mon premier réflexe, c'est de te répondre non. Non, puisqu'il y a un budget à voter de toutes les manières, que ce soit celui que Lecornu souhaite ou un autre. Et en même temps, je suis forcé de regarder dans mon rétroviseur et de me rappeler qu'il y en a un autre qui l'a fait, c'est François Bayrou. François Bayrou s'est soumis à une motion un discours de politique générale, à un vote, alors qu'il n'y était pas obligé. Donc il a fait une forme de harakiri politique aux yeux de tous, à un moment qu'il ne lui imposait pas du tout. Donc peut-être que Sébastien Lecornu va jeter l'éponge dans un mois, en disant j'y arrive pas. Ça m'étonnerait, mais au point où j'en suis, je suis prêt à être étonné. Il a dit feu à sa propre exécution, c'est ça. Est-ce qu'une partie de Renaissance pourrait se retourner contre Macron? Je ne pense pas. Je pense que dans les mots, on pourrait en entendre, mais que fondamentalement, ils continueront à vanter de la même manière. Que pèse Attal au Parlement? Gabriel Attal, il est à la tête d'un groupe. Il est quand même président de groupe. D'un groupe qui compte 91 députés. C'est le deuxième plus gros groupe de l'Assemblée nationale. Pas mal. Est-ce qu'un ministre d'un autre parti arriverait à trouver une majorité plus facilement? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'un Premier ministre insoumis réussirait à faire passer quoi que ce soit? Bof, ouais. Non. En vrai, un ministre EELV ou PS en négociant? En appliquant une partie du programme du NFP avec l'appui des macronistes, en admettant que les macronistes votent des remises en cause aussi radicales de leur programme et de leur bilan. Je pense qu'ils auront qu'une minorité qui se fera censurer. Je vois pas les macronistes abandonner leur programme un an et demi avant la présidentielle. Mais personne, hein, d'ailleurs. Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que Lecornu est dans la merde. C'est que je ne vois pas de voie de sortie pour Sébastien Lecornu dans cette assemblée. Est-ce que ça veut dire qu'il va mécaniquement être censuré? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que politiquement, il y a quelque chose qui empêche un membre de groupe ou de parti de ne pas suivre les consignes de vote de son chef de groupe? Genre les LFI où un autre membre dit non, je censure pas, et son chef dit on censure tous, il se fait virer. En fait, les groupes politiques à l'Assemblée nationale sont libres de s'organiser comme ils le veulent. Il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles juridiques qui imposent aux groupes d'avoir des consignes de vote, de ne pas en avoir, d'avoir des logiques d'exclusion, des conseils disciplinaires, des je sais pas quoi, des machins et tout. Les groupes sont libres de s'organiser comme ils le veulent. En l'occurrence, là, il y a une députée qui s'appelle Violette Spielboot, qui est une députée Renaissance, qui a refusé de voter la confiance à François Bayrou et qui a été convoqué par la direction de son groupe pour une explication Alors, je ne sais pas si une décision a été prise, si elle va se faire virer ou pas, je ne pense pas. Mais Violette Spielboot a refusé de voter la confiance pour une raison simple, c'est qu'elle était co-rapporteure de la commission d'enquête sur Betarame. Disons que Violette Spielboot ne soutient pas François Bayrou. Mais après, Violette Spielboot, elle peut aussi prendre ses responsabilités. À mon avis, c'est ça que lui ont dit d'ailleurs les responsables de son groupe, Gabriel Attal et les autres. Ils lui ont dit, Violette, est-ce que t'es avec nous ou est-ce que t'es contre nous? T'es pas obligé d'être avec nous. Personne n'est prisonnier. Si tu veux pas suivre la ligne, la suis pas. Mais par contre, tu peux partir du parti. C'est binaire. Ça peut être binaire. Ça peut être sectaire, ça peut être... Mais encore une fois, un groupe politique, vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Il faut de la cohérence politique. Si vous adhérez à un groupe, a priori, c'est cohérent de se dire que vous suivez les consignes de vote du groupe. Non pas parce qu'on vous les impose d'en haut, mais parce que vous participez à les créer, les consignes de vote. C'est votre programme que vous appliquez. Si c'était LFI, on crierait au stalinisme. Oh, je te rassure, on crie au stalinisme. T'avais un doute. Non, si vous êtes député insoumis et que vous suivez ce stream, je vous déconseille de désobéir aux consignes. C'est pas bien vu en interne. Donc, t'es 100% d'accord avec les décisions du parti que tu supportes, toi? Non, mais je fais des compromis. Ça m'arrive de faire des compromis. Tout le monde n'est pas borné. Tu peux te dire que tu soutiens les camarades, par exemple. T'es pas à 100% d'accord avec la résolution, mais que tu t'y ranges quand même. Parce que c'est dans l'intérêt du groupe, du parti, du pays, des électeurs, etc. T'es toujours encarté dans un parti politique. J'ai pas de parti politique, moi. Je suis dans aucun parti. Non, je suis indépendant. C'est le principe du parti politique, en fait, c'est pareil partout. Ouais, après, pour le coup, on a la chance en France d'avoir une offre de parti politique quand même assez, assez vaste, assez large. Chacun peut trouver à bouffer là où il veut. Il y a des cultures politiques, il y a des partis politiques qui ne fonctionnent pas de la même manière que d'autres. Il y a des partis politiques dans lesquels il faut suivre la ligne, sinon tu dégages. Il y a des partis politiques dans lesquels la ligne, elle est en discussion permanente et tout le monde discute tout le temps. C'est un peu trop d'ailleurs, c'est un peu chiant. Voilà, vous choisissez. Hein, les verts à l'ancienne. Ouais, les écologistes, pensez à vous, mais je vous vise pas particulièrement, hein, mais les écolos, putain. Il y a des parties où il n'y a pas de ligne. Non, ça n'a pas de sens. Un parti, comme son nom l'indique, c'est un parti pris. Un parti politique, c'est une orientation. C'est un parti, oui, c'est un parti pris. Il y a un minimum, il y a toujours un substrat minimum idéologique dans un parti politique. L'UIOT n'est pas un parti politique. Pensez qu'on aura combien de candidats à la présidentielle en 2027? On en aura quelques-uns. Pourquoi les députés solo ne s'organisent pas comme l'UIOT? Parce qu'ils préfèrent rester solo. Franchement, il faut leur demander individuellement à chacun pourquoi. Hein. Moi, j'en sais rien. Je préfère être indépendant, n'être dans aucun groupe. Comment ça fonctionne un député indépendant? En l'occurrence, on parle des députés non inscrits. Un député non inscrit, c'est un député qui n'est inscrit dans aucun groupe. C'est pas obligatoire, hein, d'être dans un groupe à l'Assemblée. Vous pouvez être sans groupe. Vous avez votre droit d'amendement, qui est un droit individuel garanti par la Constitution. Vous pouvez siéger en commission dans votre commission permanente. Et puis vous faites votre boulot de député, quoi. Par contre, c'est sûr, tout seul, vous pesez pas grand-chose. C'est tout l'intérêt d'un groupe politique. Encore une fois, un groupe politique, c'est pas obligatoire. Un groupe politique, ça sert à peser collectivement. Ça sert à mener des combats politiques ensemble, avec les copains, avec les camarades. On se retrouve, on se réunit, on pèse plus quand on est ensemble, quand on est le plus nombreux possible. Voilà. Et si vous voulez être solo, vous êtes solo, vous avez le droit d'être solo. Vous pesez pas bien lourd, mais vous êtes solo. Big GG pour le backseat Aluma, c'était très super intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci, merci, merci. À quand le prochain backseat? Le prochain backseat, il est ce jeudi. Ce jeudi, backseat, retour en studio. Ça va être chouette. Ça va être chouette, on va bien rigoler. Quel invité? Je vous tiendrai au courant dans la semaine de l'invité. Je vais y aller, les copains. Je vais y aller après ce stream où on a essayé de tirer au clair ce qui allait advenir de Sébastien Lecornu, c'est-à-dire pas grand-chose, rien n'a bougé. On n'y voit toujours pas plus clair dans ses négociations et dans sa capacité ou pas à trouver une majorité ou en tout cas une abstention, une majorité d'abstention de censure. Merci à vous. Conclusion, c'est pas bien parti. Ah, j'aimerais pas être Lecornu. Ça, il est mal barré, le Lecornu. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci les copains. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye, bye.